Mardi 15 septembre 2020 sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Certains ne veulent pas forcément le voir changer. Écoutez Donald Trump, arrivé sur la côte ouest, sur le front des incendies, le président américain qui répond au gouverneur de Californie qui affirme que le changement climatique aggrave la situation.
Together protecting Californians.
Okay. It'll start getting cooler.
You just watch. I wish science agreed with you.
I don't think science knows,
ça va se refroidir. Attendez pour voir, répond Donald Trump. Ça va se refroidir. J'aimerais que la science soit d'accord avec vous, lui répond-on. Je ne pense pas que la science sache réellement. Les Américains et le climato-scepticisme de leur président. Vous les entendrez dans quelques minutes. Tiens, météo et climat chez nous. De fortes chaleurs attendues encore aujourd'hui. La sécheresse et les fortes températures qui menacent les forêts de l'est du pays. Reportage à 8h. Mais ce n'est rien à côté des 450 degrés de la planète Vénus, notre voisine sur laquelle se précipitent des pluies d'acide sulfurique. Et pourtant, cette question à la une ce matin, Vénus peut-elle abriter de la vie? La NASA parle de l'événement le plus important dans la recherche de vie extraterrestre. Des voix scientifiques s'élèvent et contestent cette découverte. Un gaz dans l'atmosphère de Vénus pourrait être signe d'une vie microbienne. Faut-il y croire? On va rêver un peu, apprendre beaucoup avec François Forget, le planétologue, à 7h40, invité du tête-à-tête Europe Matin. Retour sur Terre juste après, l'édito politique de Nicolas Béteau à 7h50. Il faut tout faire pour soutenir la croissance. À la une à 8h, le débat sur la vaccination grippale, les personnes à risque, les personnels médicaux, faut-il la rendre obligatoire? Et nous parlerons bien sûr des nouvelles mesures restrictives annoncées hier pour Marseille et Bordeaux où nous sommes ce matin. Voilà quelques éléments du programme. Très bon réveil à toutes et à tous. Merci de votre confiance. Il est 6h59. Bonjour Laurent Cabrol.
Bonjour Mathieu, rebonjour à tous. La météo du jour, c'est une météo qui ressemble un petit peu à celle d'hier, sauf que les nuages sont beaucoup plus nombreux, en particulier près des côtes atlantiques. En fait, c'est une couche nuageuse généralement inoffensive, et avec ces nuages, eh bien, les températures vont un petit peu fléchir, mais elles resteront bien élevées, bien hautes. Alors, Bretagne, Loire-Atlantique, Gironde, les Landes, des éclaircies cet après-midi, mais beaucoup de nuages ce matin. Cette couche nuageuse, ce voile, disons, va gagner la Basse-Normandie, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes et le Midi-Pyrénées, et la région parisienne, comme le Massif central, comme le Languedoc-Roussillon, aura un temps lourd et chaud, mais enfin, partout il fera chaud. Hein. 25 degrés du côté de Brest, 27 à Caen, 28 à Bayonne, 30 à Niort, 31 à Marseille, 32 à Poitiers, 33 à Bourges, 34 à Lille, 35 à Paris, au pied de la Tour Eiffel, mais 33 au sommet de la Tour Eiffel. Parce que nous sommes à 300 mètres, il fera plus frais là-haut, on y sera demain.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer. Il est 7h.
Non, ça va pas m'empêcher de sortir, il faut continuer à vivre. Je pense qu'il faudra être très très dur pour empêcher les étudiants de se retrouver, de fêter la rentrée ou autre. Chacun fait ce qu'il veut.
Et ils n'en font qu'à leur tête, masques et distanciation. Beaucoup d'étudiants ne veulent pas en entendre parler. Les foyers de contamination se multiplient dans les facs, comme à l'université de médecine à Rennes. La course au vaccin contre le Covid, de nombreux labos sont sur les rangs, mais il faut des volontaires pour les tester. L'Inserm vous propose de postuler sur une plateforme en ligne. Tour de vis dans les Bouches-du-Rhône et en Gironde, des manifestations annulées. À Paris ce week-end, les journées du patrimoine seront maintenues, mais très encadrées, surtout à l'Élysée. Information de Mickaël Darmon. Dans ce journal, nous irons dans l'Oregon, l'un des États de l'Ouest des États-Unis touchés par de terribles incendies, alors que Donald Trump émet de nouveaux doutes sur le réchauffement climatique. Et puis, on vous emmènera au théâtre où Macha Merrill remonte sur scène pour un spectacle qui allie les textes de Marguerite Duras à la musique de Michel Legrand.
Juste après ce journal, comment le réseau social chinois TikTok est devenu un dossier prioritaire pour Donald Trump? L'éclairage écho de Nicolas Barré à 7h15. Le regard international de Vincent Hervouette et Vladimir Poutine au pied du mur dans l'affaire Navalny. Le courage de Thibaut Pinot qui, malgré la douleur, n'abandonne pas le tour. L'édito sport à 7h20 avant de retrouver Stéphane Bern, bien sûr. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1, il est 7h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, en appelle à la responsabilité de chaque étudiant. Et pourtant, les foyers de contamination se multiplient dans les écoles, les universités, chez les étudiants en médecine de Rennes 1, par exemple. 43 cas positifs ont été décelés. Près de 500 jeunes seront testés dans la semaine.
Le président de l'université avait pourtant interdit soirées et week-ends d'intégration. Mais difficile de convaincre des jeunes qui n'ont qu'une envie, se retrouver. François Coulon.
Nos étudiants en médecine devraient donner l'exemple en ne respectant pas la consigne. Ils ont propagé le virus lors de soirées privées, s'étrangle le président de l'université de Rennes, David Alice.
Nous avions interdit tout ce qui était week-end d'intégration. J'ai été consterné par ce comportement. Il y aura des sanctions s'il doit y en avoir.
Les victimes auraient contracté le virus en fêtant leur réussite de fin de première année dans des bars rennais. Enzo et Yves, témoins d'un laxisme manifeste.
Forcément, il y a des abus avec d'autres personnes qui, avec l'alcool, font que les distances ne sont pas forcément respectées.
Il n'y a aucun masque, hein. Notamment dans les bars de nuit où ça s'entasse. Et les bars demandent à ce que les gens rentrent avec des masques, puis sortir aussitôt.
Les 490 étudiants de deuxième et troisième année seront testés dans la semaine. Ils devront suivre leurs cours à distance. Certains ne sont pas refroidis par ce lourd bilan, Jordan.
Non, ça ne va pas m'empêcher de sortir. Il faut continuer à vivre. S'il arrive quelque chose, il arrive quelque chose malheureusement. Moi, je continuerai.
On ne pourra pas vous empêcher en fait.
Je pense qu'il faudra être très très dur pour empêcher les étudiants de se retrouver et de fêter la rentrée ou autre. Chacun fait ce qu'il veut.
Dès demain, les bars rennais devront fermer leurs portes à 23h. Décision de la préfète. Rennes, François Coulon, Europe 1.
Quelles sont les villes françaises les meilleures pour étudier ? Toulouse arrive en tête devant Lyon. Rennes, dont on vient de parler, Montpellier et Nantes, Paris est 9e. C'est le classement annuel du magazine L'Étudiant. Vous en retrouvez tous les détails sur notre site europe1.fr.
Un peu plus de sévérité pour lutter contre la progression du virus. Hier, les préfets de Gironde et des Bouches-du-Rhône ont annoncé un renforcement des mesures.
Pas plus de 10 personnes rassemblées dans les parcs, sur les plages ou encore sur les quais. Et pour les événements publics, 1000 personnes maximum contre 5000 jusqu'ici, y compris pour les matchs de foot.
Beaucoup d'espoir repose sur un vaccin qui pourrait endiguer le Covid. Plus de 200 projets dans le monde actuellement, mais seuls quelques-uns arrivent dans leur dernière phase d'essai clinique.
Et bien sûr, à chaque fois, il faut des volontaires pour les tester. En France, l'INSERM propose à chacun d'entre nous de participer via une plateforme qui sera bientôt lancée sur Internet. Jean-Sébastien Soldaini.
Tout le monde peut s'inscrire, que vous soyez positif ou non au coronavirus. Seule contrainte, avoir plus de 18 ans. Ensuite, ce sont les labos qui constituent leur panel. À partir de cette liste de volontaires, en fonction de leurs besoins, ils fixent eux-mêmes les critères d'âge, la présence de comorbidité, avant d'injecter le vaccin. Marie Lachâtre est médecin infectiologue à l'hôpital Cochin. Elle précise qu'il suffit ensuite de laisser vivre leur vie aux patients.
En France, puisque... il y a une reprise de l'activité et donc l'exposition sera celle qu'on a et que tout le monde a aujourd'hui pour voir dans quelle mesure tel ou tel groupe, et on l'espère le groupe avec le vaccin, est plus protégé que le groupe qui a reçu le placebo.
Une indemnisation est prévue, le montant sera limité et ce sera impossible d'en vivre. De toute façon, ce n'est pas ce qui motive Florence, candidate au test.
J'ai deux grands-mères, je vais les voir assez régulièrement. J'ai toujours l'appréhension de me dire, même en respectant les gestes barrières, elles peuvent être contaminées. Alors que si je pouvais participer à cette initiative, et c'est quelque chose que je peux faire à mon échelle et qui me paraît intéressant.
Le calendrier de test n'est pas encore établi, mais les premiers essais devraient être menés en fin d'année ou début 2021.
Jean-Sébastien Soldaini. Valéry Giscard d'Estaing, transféré hier à l'hôpital parisien Georges Pompidou, l'ancien président âgé de 94 ans, serait en réanimation pour des problèmes respiratoires. Selon son fils, c'est un check-up. Il est en relative bonne forme pour son âge.
Plusieurs manifestations publiques sont annulées, notamment les journées du patrimoine à Marseille comme à Bordeaux. En revanche, à Paris, elles sont pour l'instant maintenues le week-end prochain.
Oui, mais avec d'importantes restrictions. L'Élysée sera ouvert au public, mais c'est ce que vous nous révélez ce matin, Michael Darmon. Les visiteurs seront placés sous haute surveillance. Il faudra un rendez-vous, ils devront montrer patte blanche, c'est ce qu'on appelle le criblage de sécurité. Crise sanitaire oblige, mais pas seulement.
Oui, parce que l'Élysée, effectivement, reste discret sur ce dispositif, mais selon nos informations, il s'agit surtout d'éviter une infiltration de gilets jaunes ou autres contestataires qui viendraient faire un coup d'éclat. Donc les mesures liées au Covid permettent donc de maintenir une sécurité très renforcée. 5000 visiteurs seulement cette année au lieu des 20 000 habituels, et ils seront au préalable criblés. En clair, toutes les identités seront vérifiées par les services de police et de renseignement et les profils suspects ne seront pas autorisés à entrer à l'Élysée, ce qui montre bien la prudence de l'exécutif en cette rentrée sensible.
Les informations de Michael Darmon.
7h06 sur Europe 1. Dans l'ouest des États-Unis, les incendies font rage et Donald Trump joue encore une fois la carte du climato-scepticisme. Le président américain, en visite en Californie, a lancé cette phrase: ça finira par se refroidir.
Oui, et réplique cinglante de son adversaire démocrate Joe Biden. Trump est un pyromane du climat. Xavier Yvon est l'envoyé spécial d'Europe 1 en Oregon. Ce débat sur le changement climatique, il l'a retrouvé en plein milieu des incendies.
Éric le charpentier et John l'électricien retraité sont amis. Ils vivent à quelques kilomètres l'un de l'autre au bord de la rivière Santiam. Quand les flammes ont surgi, ils ont tous les deux choisi de rester pour défendre leur maison. Mon porche a pris feu, raconte Éric. J'ai réussi à l'éteindre avec 20 litres d'eau. Sa maison est encore debout, mais tout le quartier autour a été réduit en cendres. Alors Éric a trouvé refuge chez John, dont la maison elle a été épargnée, avec son grand drapeau Trump planté sur son toit. John raconte qu'il vient de voir Trump à la télé dire qu'il faut une meilleure gestion des forêts et il est tout à fait d'accord avec le président. Sa réponse à toute cette merde, c'est de ratisser les forêts, mais enfin, s'énerve Eric, qui parle, lui, de changement climatique, de notre impact sur l'environnement. John insiste. Pour éviter que ça brûle, il faut mieux s'occuper des forêts plutôt que de dire « fini le pétrole, fini les avions, fini les vaches qui pètent et tout ça ». Les deux amis se marrent, enveloppés dans le brouillard de fumée. Éric le barbu et John le moustachu sont au moins d'accord sur un point. Jamais leur région n'avait connu des feux aussi dévastateurs. Gates, Xavier Yvon, Europe 1.
Voilà qui donne envie de prendre un peu d'altitude avec cette découverte qui vient d'être publiée dans une revue d'astronomie. Il y aurait peut-être un signe de vie dans les couches nuageuses de Vénus.
Cette planète grise à l'atmosphère pourtant franchement inhospitalière, des chercheurs y ont découvert un gaz qui, sur notre Terre, est associé à la vie, l'or d'Autriche.
Avec ses températures proches des 500 degrés et ses pluies d'acide sulfurique, Vénus semble être un enfer. Et pourtant, il pourrait y avoir des traces de vie dans l'atmosphère de cette planète où il fait beaucoup moins chaud. De la phosphine a été détectée. C'est un gaz toxique qu'on trouve sur Terre en petite quantité à l'état naturel, explique Sylvestre Maurice, astrophysicien au CNES à Toulouse.
À l'état naturel, c'est associé à des marécages, des zones humides, des fumiers. Et donc, c'est plutôt, effectivement, sur Terre, associé à des processus de vie. C'est vraiment un sujet qui commence et qui nous rappelle exactement, je dirais, le même sujet sur Mars.
La planète Mars, où l'on a trouvé il y a plusieurs années des traces de méthane et sur laquelle on s'est alors mis à chercher des signes de vie. Ici, sur Vénus, il pourrait s'agir de microbes vivant dans les gouttelettes des nuages. Ce qu'espèrent les scientifiques, c'est en tout cas que cette découverte relance l'exploration de cette planète un peu délaissée.
Lors d'Autriche, un couple d'Alsaciens va en tout cas pouvoir se payer un voyage dans l'espace et plein d'autres choses. Il vient d'encaisser les 157 millions d'euros de l'euro-million grâce à un bulletin validé à Célestat, selon les informations du Parisien. Pour l'instant, ils continuent à travailler, n'ont pas d'envie délirante. Un nouvel ordinateur pour monsieur et une jolie montre pour madame.
Un nouvel ordinateur, 157 millions d'euros, monsieur. Quelques nouveaux ordinateurs, peut-être. Hélène Zélani, Macha Meryl, de retour sur les planches. À partir de ce soir, au théâtre de Poche-Montparnasse, elle joue, seule sur scène, des extraits de textes de Marguerite Duras sur la parole des femmes.
Seule, pas tout à fait, puisqu'elle est accompagnée de la musique de son mari défunt, Michel Legrand, qui a aussi composé des œuvres classiques.
J'avais envie de réunir Marguerite Duras et Michel Legrand, parce que Marguerite Duras écrit de la musique avec des mots et Michel Legrand écrit de la poésie avec des notes de musique. Marguerite, c'est extraordinaire comment elle écrit. D'ailleurs, je ne vous dis pas comment c'est difficile à apprendre, hein, parce que les mots qu'elle choisit, les adjectifs, c'est jamais tout à fait celui qu'on attend. C'est toujours un petit peu à côté. Donc c'est ça la poésie, c'est de vous évoquer des sentiments de travers comme ça. Et je pense que Michel Legrand, c'est un peu la même chose. Il est tout le temps en rupture. Il vous propose une mélodie sublime, on voudrait la réentendre. Eh ben non, hop, il vous emmène ailleurs. Mon rôle, voyez-vous, maintenant, depuis qu'il est parti, c'est de bien faire comprendre à tout le monde à quel point il est un grand musicien français, point. J'en ai marre quand tout le temps on dit « oui, les parapluies de Cherbourg, les chansons, la variété, le jazz ». Non, Michel est tout simplement un grand compositeur moderne. Il a mélangé tout ça, il a fait une œuvre à lui, en prenant toutes ses sources, toutes ses inspirations.
Macha Meryl au micro de Diane Chénouda, dès ce soir dans son nouveau spectacle Sorcière, texte de Duras, musique de Michel Legrand, 30 représentations exceptionnelles au théâtre de Poche-Montparnasse.
Hélène Zélani, c'était le journal de 7h. Merci Hélène, bon réveil à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Ce matin, c'est votre regard sur la conquête spatiale qui va sûrement changer. Et si notre voisine, Vénus, était en fait une planète vivable ? Des télescopes terrestres ont détecté de la phosphine, un gaz qui pourrait témoigner d'une vie microbienne extraterrestre, donc dans l'atmosphère de Vénus. Attention aux effets d'annonce, c'est ce que nous dira le planétologue François Forget, même si on a un peu envie de rêver ce matin, directeur de recherche au CNRS et membre de l'Académie des sciences, invité du tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco de Nicolas Barré, le regard international de Vincent Hervouette. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h14, c'est l'heure de l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Si vous ne connaissez pas TikTok, vous passez à côté d'un phénomène mondial. Cette application d'origine chinoise a été téléchargée plus de 2 milliards de fois et elle rend fou Donald Trump.
Exactement. Le dossier TikTok, ça fait partie des urgences de Donald Trump et cette histoire est hors du commun. TikTok, c'est un réseau social sur lequel on s'échange des petites vidéos virales. Les Américains l'adorent. Il y a plus de 100 millions d'utilisateurs là-bas, 800 millions dans le monde. Le problème, c'est que TikTok est chinois. Or, un réseau social chinois, avec ce que ça veut dire en termes de contrôle des données personnelles, peut-il s'infiltrer dans des millions de foyers américains pour Donald Trump ? La réponse, évidemment, est non. Et il a donné jusqu'au 20 septembre à TikTok, plus précisément à sa maison mère chinoise ByteDance, pour vendre les activités américaines de TikTok à un Américain, sans quoi la société serait interdite.
Et il a fait plier les Chinois.
Exactement, un accord a été conclu hier pour la vente de ses activités au géant américain du logiciel Oracle, dont le fondateur Larry Ellison est un proche de Trump, ça aide. Pour continuer à opérer aux États-Unis, TikTok devra donc s'associer à Oracle. C'est un peu comme si nous, en Europe, nous disions à Facebook que pour continuer à exister chez nous, il faudrait qu'ils vendent leurs activités européennes à un Français ou à un allemand. Les États-Unis exigent en fait des Chinois ce que les Chinois imposent au monde entier. Vous voulez accéder à notre marché, eh bien vous devez faire alliance avec un groupe local, partager votre technologie. Washington rend à Pékin la monnaie de sa pièce.
Cette affaire montre aussi que les Américains s'inquiètent de voir la Chine devenir une grande puissance technologique.
Oui, derrière cette histoire, en fait, Trump cherche par tous les moyens à ralentir la montée en puissance du rival chinois. C'est le sens de la guerre qu'il mène sur la 5G avec Huawei. L'argument de la sécurité des données personnelles est bien pratique, mais la vérité, c'est aussi que les Chinois rivalisent avec les géants américains de la tech et font parfois mieux. Donc Trump monte au front. L'Europe aussi, d'ailleurs. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a dit hier lors d'un sommet avec le président chinois qu'il fallait, je cite, « rééquilibrer les asymétries avec Pékin ». Alors, c'est pas du Trump, mais ça veut dire à peu près la même chose. Ne soyons pas naïfs face à Pékin. Le monde se durcit.
Oui, rééquilibrer les asymétries, c'est pas du Trump dans la formulation.
Non,
je vous l'accorde. Nicolas Barré, merci beaucoup. Il est 7h16. Le regard international de Vincent Hervouette. Bonjour Vincent.
Bonjour à tous.
Vous revenez ce matin, Vincent, sur le coup de fil d'Emmanuel Macron à Vladimir Poutine hier. Le président français a dénoncé la tentative d'assassinat contre l'opposant Navalny.
Alors les chimistes des laboratoires militaires français et suédois ont bien identifié du Novichok, et pas un vulgaire neurotoxique. Le Novichok, c'est comme les œufs de Fabergé, ça reste une exclusivité russe. Le crime est signé en lettres cyrilliques. Les tueurs qui ont épicé le thé d'Alexei Navalny avaient accès à l'armoire au poison des services russes. Alors de qui s'agit-il ? Du GRU, du FSB qui sont en lutte constante pour le pouvoir, d'un escadron de la mort aux ordres des oligarques comme des spécialistes en mort subite en subodore l'existence avec des exécutants recrutés dans les services secrets. Dans tous les cas de figure, le pouvoir est en accusation. Soit il savait et il a laissé commettre ce crime d'État, soit il ignorait et c'est pire encore. On comprend que Vladimir Poutine se soit insurgé quand Emmanuel Macron a exigé une clarification, car le tsar est nu.
Vladimir Poutine est piégé.
Il a le choix entre deux mauvaises solutions. Soit assumer la tentative d'assassinat, enquêter, mener la purge, c'est ce que réclament les Européens, que le tigre devienne végétarien, soit réagir en soviétique, nier l'évidence, dénoncer le complot étranger. C'est ce que fait le Kremlin en accusant les Allemands de l'empêcher d'enquêter. Il se victimise et il verrouille. C'est à huis clos qu'il soldera les comptes. Il l'avait fait après l'empoisonnement de Colonel Skripal et de sa nièce au Royaume-Uni. Il paraît que les négligents qui avaient laissé des traces derrière eux ont été saqués et leur patron aussi. Mais il n'y aura pas d'enquête transparente. Comme dit l'Élysée, un tchéquiste garde ses réflexes, le secret le protège, un homme dressé au KGB ne croit qu'à la force.
Est-ce qu'il est affaibli ?
La question est de savoir s'il contrôle encore ces organes qui forment l'ossature du régime qu'il incarne. En changeant la constitution pour se maintenir au pouvoir, Vladimir Poutine comptait faire rentrer dans le rang ceux qui anticipent son effacement. Eh bien, c'est raté. Et il vit depuis des mois, d'ailleurs, retranché dans sa datcha. Le pari réaliste qu'avait tenté Emmanuel Macron en l'accueillant au fort de Brégançon il y a un an est raté aussi. La visite retour au Kremlin risque d'attendre longtemps. Et le seul, finalement, qui s'en sorte bien, c'est Navalny. Il est sorti du coma. Deux de ses représentants ont été élus dimanche dans la ville de Sibérie où il a été empoisonné. C'est une revanche symbolique. Navalny, plus grand, à moitié mort que bien vivant, et plus encombrant en convalescence qu'en campagne électorale.
Merci Vincent Hervoit. Il est 7h19. Avant 7h30, votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Mais juste avant, l'édito sport et la leçon de mental du cycliste Thibaut Pinot qui refuse d'abandonner son Tour de France malgré la douleur. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h22 sur Europe 1. L'édito sport avec Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
Le Tour de France entame sa dernière ligne droite aujourd'hui. Encore 6 jours de course pour rejoindre Paris et il n'y aura pas de Français sur le podium. Mais ce matin, Virginie, vous voulez quand même dire toute l'admiration que suscite chez vous l'attitude de Thibaut Pinot.
Alors, on le rêvait en vainqueur, c'est vrai, mais sachons apprécier le perdant magnifique. Thibaut Pinot ne sera pas sur le podium à Paris, mais il ira jusqu'aux Champs-Élysées. En tout cas, il fera tout pour, il en fait une obsession, il le dit dans l'équipe. Ne pas abandonner, aller au bout pour lui-même, pour ses coéquipiers et pour les gens qu'il soutiennent. C'est une question d'amour propre, d'amour du vélo et d'amour de la France aussi. Et oui, c'est admirable, parce que ce serait plus facile pour lui de laisser tomber en invoquant sa blessure au dos et de nous donner rendez-vous plus tard. Franchement, on n'aurait rien à lui reprocher.
C'est ce que j'aurais fait, moi.
Ouais, quand on chute dès le premier jour de la course, qu'on a le dos en vrac, c'est vrai qu'on n'a plus aucune chance de victoire finale, ni même de podium. Bah, on comprendrait qu'il passe son Tour de France, mais non. Il dit que c'est un devoir pour lui de continuer, même en souffrant. Ce qui me fait rire, c'est les gens qui ironisent sur son manque de mental. Vraiment, quand on est blessé dans sa chair, dans son âme, qu'on trouve la force de monter sur son vélo tous les matins pendant 3 semaines pour avaler des centaines de kilomètres et des cols hors catégorie, je pense que Thibaut Pinot peut nous donner quelques leçons de mental. C'est sans doute aussi les souvenirs douloureux de son abandon de l'an passé, si proche du but, si inexplicable, qui lui donne la force de continuer. Ouais, être un champion, c'est pas juste grimper sur les plus hautes marches du podium, hein, c'est aussi faire preuve de cette abnégation.
Oui, parce qu'on ne peut pas admirer que les vainqueurs.
Bah, que vaudraient exactement les sourires radieux des vainqueurs sans les grimaces de douleur de ceux qui échouent. La façon dont un sportif accepte l'échec et les coups du sort sans jamais se cacher, c'est peut-être une des plus grandes leçons de vie. Thibaut Pinot doit avoir le cœur aussi lourd que les jambes le soir quand la fin des étapes arrive. Passer de leader dont on attend tout à équipier qui essaie de travailler pour les autres, c'est une leçon d'humilité et c'est ce que nous apprend le sport quand on ne le dénature pas. On dit bien se remettre en selle, non ? Alors sans podium et avec une nouvelle occasion ratée, moi j'ai envie de dire merci à Thibaut Pinot pour l'exemple qu'il nous donne dans ce Tour de France 2020.
Dernière semaine, arrivée le week-end prochain en l'occurrence, dernière ligne droite pour le Tour de France, les Alpes aujourd'hui, le journal du Tour à 8h30 et bravo à Thibaut Pinot. J'espère qu'il a écouté l'édito sport de Virginie Fulpin ce matin. Il est 7h24. Et comme tous les matins, juste après l'édito sport, on parle d'histoire, on retrouve Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Tous les jours à 16h sur Europe 1, l'autre Mathieu, vous savez mon complice Mathieu Noël, a parfois la dent dure me concernant. Il me dépeint volontiers comme un personnage empoulé, passionné par des rois oubliés, aux références culturelles poussiéreuses. Eh bien, tordons le cou à tout cela. C'est un 15 septembre 1997 que Google dépose juridiquement le nom Google.fr. D'où vient Google ? À l'origine, Google, avec 3 O, est un terme mathématique désignant l'entier naturel, un 1 avec 100 zéros derrière. Avant cela, les deux cofondateurs de la marque, âgés de moins de 30 ans, appellent leur projet de moteur de recherche Backrub, qui signifie massage du dos. Bon, allez comprendre.
Et il paraît que quand ils déposent Google, une faute de frappe transforme le nom en Google ?
Bah, c'est en tout cas ce que dit la légende. Depuis, tout le monde utilise ce moteur de recherche sur son ordinateur. Bah, tiens justement, pourquoi dit-on « ordinateur » Eh bien, c'est le français Jacques Perret, latiniste et philologue, celui qui étudie une langue et sa littérature, qui va proposer ce mot à IBM, qui s'apprêtait justement à commercialiser une nouvelle machine, l'IBM 650. Aux États-Unis, on appelle ça « a computer ». Avant ordinateur, le professeur à la Sorbonne va proposer sans succès congesteur, digesteur et synthétiseur. Ordinateur a pour racine latine ordinat, ordre. Le mot signifiait « Dieu qui met de l'ordre dans le monde ». Le mot est adopté en 1955. Mais est-ce que nos ordinateurs ont réussi à mettre de l'ordre dans notre monde? Eh bien, je laisse à chacun la liberté de son opinion.
Vous avez 4 heures, Stéphane Bern. À 4 heures, justement, 16 heures tout à l'heure, on vous retrouve pour Historiquement Vôtre. Quel est le programme du jour?
Eh bien, les meilleurs attaquants de l'histoire s'affrontent cet après-midi, ou se rencontrent en tout cas. Et pour la première fois, le Romain Marc-Antoine, Napoléon, l'homme aux 45 batailles, et Éric Cantona lui-même, dont Mathieu Noël dressera son portrait en évitant évidemment de se faire casser les dents. Bref, on vous raconte l'histoire sans se la raconter de 16h à 18h sur Europe 1.
A tout à l'heure, 16h.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et à suivre la météo de Laurent Cabrol, un nouveau journal à 7h30 avec Sophie Echen. Europe 1. Il est 7h29, Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Les nuages sont là sur les côtes atlantiques, ils viennent obscurcir un tout petit peu le ciel et ils seront présents sur une bonne moitié ouest dans le courant de la journée. Le soleil s'éclipse, mais comme l'on dit que quand le soleil s'éclipse, on en voit la grandeur, il sera là, grand et beau ce soleil, avec des températures de 27 à 35 degrés. C'est à Paris qu'il fera le plus chaud avec 35, 27 à Caen, en passant par 31 à Toulouse, Épinal 32 et 33 à Lyon.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le journal sur Europe 1, il est 7h30.
Tout le monde le savait, je ne sais pas si c'est négligence ou accident ou autre, mais je veux juste la justice pour mon fils, c'est tout ce que je veux.
La mère de Jaden, mort après avoir mangé des crêpes lors du carnaval de l'école, réclame justice. Le procès de la maîtresse du petit garçon s'ouvre aujourd'hui. À Bordeaux, il va désormais falloir limiter les rassemblements dans les parcs et sur les quais. Pas sûr que la mesure soit entendue. Les policiers ne sont pas des ennemis. Ça, c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'a dit. La France insoumise investit le terrain de la sécurité et de la délinquance. Et puis focus sur ces femmes qui mènent leurs troupes à la baguette. Le concours de la meilleure chef d'orchestre démarre aujourd'hui.
Juste après ce journal, la NASA parle de l'événement le plus important dans la recherche de vie extraterrestre, un gaz dans l'atmosphère de Vénus dont on va parler avec François Forget, planétologue du CNRS. La croissance ne sera pas si mauvaise selon les projections. Que ça plaise ou non, il faut tout faire pour relancer. L'édito politique de Nicolas Bétou à 7h50, avant de retrouver Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk ce matin, Adrien Quatennens, député de la France Insoumise du Nord. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est un drame qui avait suscité beaucoup d'émotions il y a 2 ans. La mort d'un petit garçon de 6 ans à Villefranche-sur-Saône, près de Lyon, après avoir mangé des crêpes à l'école. L'enfant était allergique au lactose. Or, ces crêpes avaient été préparées avec du lait. C'est son enseignante qui lui en avait donné. Son procès pour homicide involontaire s'ouvre aujourd'hui. Jean-Luc Boujon.
En ce 29 mars 2018, c'est jour de carnaval à l'école. Dans sa classe de maternelle, l'institutrice prépare des crêpes pour le goûter. Elle en donne à tous les élèves, y compris au petit Jaden, 6 ans, qui en mange 2. Le problème, c'est que les crêpes sont préparées avec du lait, que le petit garçon est allergique au lactose. C'est écrit dans le PAI, le document rempli par les familles chaque début d'année, explique Marie, sa maman.
Tout le monde le savait. Tous les ans, à chaque rentrée, il y avait une PAI qui était signée par la maîtresse et l'infirmière de l'école et la directrice et le médecin. C'était bien écrit noir sur blanc. Je ne sais pas si c'est négligence ou accident ou autre. Mais je veux juste la justice pour mon fils, c'est tout ce que je veux. Parce que pour nous, le drame qui est arrivé à Jaden, pour nous, c'est comme si c'était hier, tous les jours.
C'est quelques heures plus tard, juste après être rentré à la maison, que le petit garçon meurt d'un choc anaphylactique. Tout à l'heure, c'est donc son institutrice qui sera jugée, une femme de 58 ans, très marquée par ce qui est arrivé, explique son avocat, maître Frédéric Laliard.
Bien sûr qu'elle s'en veut, et elle s'en voudra toute sa vie. Elle assume de manière complète les faits qui lui sont reprochés. Elle a le sentiment aussi qu'elle n'a pas été peut-être suffisamment alertée par les parents sur cette pathologie lourde de l'enfant.
Une institutrice qui n'enseigne plus aujourd'hui, elle risque en théorie jusqu'à 7 ans de prison. Villefranche, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
L'actualité, c'est évidemment l'épidémie de coronavirus. Plus de 6000 nouveaux cas enregistrés en France hier. Le nombre de patients en réanimation qui continue d'augmenter.
Dans ce contexte, les préfectures des Bouches-du-Rhône et de Gironde resserrent la vis. Le virus est particulièrement actif dans ces deux départements. Résultat, pas de journée du patrimoine. La foire internationale de Marseille est annulée. Et puis on oublie les soirées dansantes, les fêtes étudiantes et les apéros sur les bords de Garonne à Bordeaux. Mais la consigne a du mal à passer. Stéphane Place.
Douceur d'une soirée estivale, tranquillement assis dans l'herbe sur les quais, bordant la Garonne, une bouteille de vin et un saucisson au milieu du cercle qu'ils forment. Ces étudiants en histoire viennent d'apprendre que ce type de rassemblement est dorénavant interdit ici.
Interdit sur les quais. On essaiera quand même de faire un petit rosé chez nous.
C'est une rentrée, les gens sont facilement plus de 10 après tout un confinement sans avoir communiqué avec ses amis ou s'être vu. Il y en a un 11e, toi tu pars. C'est pas facile, c'est sûr.
Un peu plus loin sur les quais bordelais, un autre groupe d'une vingtaine de jeunes s'offre un apéro en musique.
Les concerts sont annulés, les festivals sont annulés, les boîtes de nuit aussi. Il reste quoi du coup? En attendant le Puy du Fou et tout, c'est quand même autorisé.
Dernières heures de clémence, la préfète a prévenu, les bars aussi doivent faire respecter les mesures sanitaires strictement. Derrière son comptoir, Léo constate surtout que c'est le masque qui pose problème.
On est obligé de fliquer les gens pour le port du masque, constamment, quand les gens vont aux toilettes, quand ils viennent au comptoir, encore plus quand ils ont un peu bu un peu plus tard dans la soirée.
Les policiers locaux vont recevoir le renfort d'un escadron de gendarmes mobiles pour faire appliquer cette série de nouvelles restrictions. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
La politique et la France insoumise étaient réunies en colloque hier avec un sujet au cœur du débat, la sécurité. Après la droite et l'extrême droite, c'est au tour du mouvement de Jean-Luc Mélenchon de s'emparer du débat. Claudia Bertram.
Les policiers ne sont pas des ennemis. Jean-Luc Mélenchon entame sa révolution sur le thème régalien en vue de 2022 et il commence par dénoncer la politique actuelle.
16 lois contre le terrorisme, 21 à propos de l'immigration, 32 à propos de la lutte contre la délinquance et nous concluons à l'inefficacité absolue et à l'inutilité totale des politiques qui ont été mises en œuvre.
Jean-Luc Mélenchon se défend quant à lui de tout angélisme à propos de la délinquance. Au programme formation des policiers, dissolution de l'IGPN, retour à la conscription ou encore dépénalisation du cannabis. Et tout en continuant à dénoncer les violences policières, sa nouvelle devise, c'est prévention, répression, réparation.
Oui, il y a besoin de policiers. Oui, il y a besoin de répression. Oui, il y a besoin de ne pas accepter la banalisation du crime, à supposer qu'elle ait jamais été banalisée.
Le leader de la France insoumise assume d'avoir évolué sur le sujet de la sécurité. Objectif, montrer qu'il est en capacité d'attirer un électorat populaire et d'être le candidat unique de la gauche pour l'Élysée, l'éternel pari de Jean-Luc Mélenchon.
Une première mondiale à la Philharmonie de Paris, le concours La Maestra qui met à l'honneur les femmes chefs d'orchestre.
Elle ne représente que 5% de la profession face à ce constat accablant et à une évolution trop lente des mentalités. Une chef d'orchestre a décidé de mettre ses consoeurs à l'honneur. Le concours démarre aujourd'hui et se poursuit jusqu'à la fin de la semaine lors d'Autriche.
Quand on va dans les concours internationaux qui sont paritaires de direction d'orchestre, on s'aperçoit qu'il y a peu de femmes de sélectionnées pour concourir. C'est-à-dire qu'il y a déjà une sélection sur dossier.
Voilà pourquoi Claire Gibault, chef d'orchestre, a décidé de créer un concours uniquement pour les femmes. 220 candidatures reçues, 50 nationalités. Parmi elles, Stéphanie Childress, candidate franco-britannique de 21 ans.
Quand j'étais à l'université, je demandais à mes amis de jouer pour la 9e de Beethoven. Ils m'ont dit « Ah, ben, c'est les garçons n'ont pas fait la 9e de Beethoven, alors on n'est pas sûr que tu peux le faire. » Je pense que ça va faire quelque chose, voilà, pour les femmes chefs.
En France, sur les 20 orchestres permanents, seule une femme est à la tête d'un de ces orchestres. Elles sont souvent seulement invitées pour diriger un ou deux concerts, dit Claire Gibault, la directrice du concours.
Il faut donner du courage aux agents aussi de s'attacher à des femmes chefs d'orchestre parce que tout ce système vit un peu sur la tradition, avec cette image du chef d'orchestre.
Le jury du concours est paritaire. Dans la salle, des responsables d'orchestres français et de grandes salles de concert seront là pour repérer les chefs de demain. Et signe que les choses commencent peut-être à bouger. Début septembre, Déborah Waldman a pris les rênes de l'orchestre régional Avignon-Provence. Elle devient la première femme en France à diriger un orchestre permanent national.
Sophie Echen pour le journal de 7h30. Merci beaucoup Sophie, il est 7h37. Très bon réveil à toutes et à tous avec Europe 1. Les questions de sécurité au cœur du débat à la France Insoumise aussi. Un colloque organisé hier, vous l'avez entendu dans le journal. Sonia Mabrouk reçoit Adrien Quatennens à 8h15, le député insoumis du Nord. Au programme de l'interview, le plan de relance également et les tractations pour une candidature commune à gauche en 2022. Mais dans un instant, nous allons apprendre ensemble. Apprendre et rêver. Un gaz découvert dans l'atmosphère de Vénus qui laisse penser à une possible vie microbienne dans l'atmosphère de notre voisine. Avec ses 500 degrés, c'est plus acide. Vénus est-elle une planète vivable? Dans une minute, je pose la question au planétologue François Forget. Le tête-à-tête Europe Matin à suivre.
Europe Matin, le 7-9.
Europe 1, il est 7h40. Savoir, comprendre, mais peut-être aussi rêver un peu ce matin. Des télescopes terrestres ont détecté de la phosphine, un gaz qui pourrait témoigner d'une vie microbienne extraterrestre dans l'atmosphère de Vénus. Mon invité, le planétologue François Forget, directeur de recherche au CNRS, membre de l'Académie des sciences.
Le tête-à-tête. Mathieu Béliard.
Bonjour François Forget.
Bonjour.
Parmi vos casquettes, je lis aussi spécialiste des atmosphères planétaires au laboratoire de météorologie dynamique. Clairement, on a besoin de vos lumières ce matin. Ce gaz découvert, cette phosphine d'abord, c'est un nouveau mot pour beaucoup d'entre nous. La phosphine, c'est quoi ?
Oh bah c'est une molécule assez simple, hein. C'est un atome de phosphore avec trois atomes d'hydrogène. Alors on en trouve beaucoup par exemple dans l'atmosphère de Jupiter ou de Saturne, parce que ce sont des atmosphères essentiellement composées d'hydrogène. Par contre c'est vrai qu'on en trouve, a priori on n'est pas censé en trouver par exemple ni sur Terre et encore moins sur Vénus. Alors sur Terre on en trouve un tout petit peu parce que ça peut être généré par certains organismes. Alors je dois dire que c'est un gaz très toxique pour les organismes comme nous qui respirons de l'oxygène.
J'ai vu dans des fumées, ouais. Par exemple, dans des lisiers, dans des marécages, ce genre d'endroit.
Voilà, en fait, ça, c'est produit parfois par des bactéries. On ne sait pas trop comment d'ailleurs. Par des bactéries, ce sont les bactéries qu'on appelle anaérobies, c'est-à-dire celles qui n'aiment pas l'oxygène, qu'on trouve par exemple dans les intestins de certains animaux. Et donc d'où l'histoire de lisier. Et donc on en trouve parfois. Par contre, c'est assez toxique pour nous, et c'est pas très courant quand même, il n'y en a pas des grandes quantités.
Et on parle aujourd'hui, c'est un autre mot qu'on apprend aujourd'hui, de biomarqueur. Cette phosphine pourrait être l'indice d'une vie microbienne dans l'atmosphère de Vénus, c'est ce qui est dit. Pourquoi cette phosphine nous indiquerait la présence de vie ?
Alors l'idée c'est que, encore une fois, dans les conditions sur Vénus, par exemple, faut imaginer, c'est une épaisse atmosphère de dioxyde de carbone, de CO2. Et dans ces conditions-là, vraiment, la phosphine n'est pas censée exister. Elle est détruite assez rapidement. Et en plus, on ne voit pas quelle source il pourrait y avoir. Donc, dans ce contexte-là, le fait d'en détecter, ça fait gratter la tête aux chercheurs qui se disent, mais d'où elle vient, quoi. Et alors, ils ont envisagé toutes sortes de possibilités. Vous savez, par exemple, je sais pas, des éclairs dans les nuages, du volcanisme. Puis rien ne marche. Donc, ils se disent, on en détecte, on n'arrive pas à l'expliquer, qu'est-ce que ça peut être. Sur Terre, c'est produit par la vie, donc peut-être c'est de la vie. En plus, la vie sur Vénus, c'est pas une idée tout à fait nouvelle dans ce contexte-là.
On l'a répété ce matin, le décor de Vénus, ce sont des températures à 450 degrés, des pluies d'acide sulfurique, une pression 90 fois supérieure à celle de la Terre, je parle sous votre contrôle, bien sûr, mais c'est franchement hostile, présenté comme ça. Là, ce qu'il faut bien expliquer, c'est qu'on parle de l'atmosphère de Vénus, pas du sol de Vénus.
Tout à fait. À la surface, vous l'avez dit, il fait 450 degrés. Donc là, c'est plus chaud qu'un four en pyrolyse, vous voyez. Donc rien de survie. Même on a envoyé quelques robots, ils grillent en quelques dizaines de minutes. Donc non, la surface est très inhospitalière. Mais si on monte en altitude, vous savez, quand on monte, il fait un peu plus froid. Et à peu près vers 50-60 km, on a là une épaisse couche de nuages. La pression à peu près comme sur Terre. La température, il fait 0, 30, 50 degrés. Et là, on a des gouttelettes dans les nuages. Alors, ce ne sont pas des gouttelettes d'eau, ce sont des gouttelettes plutôt d'acide sulfurique avec un peu d'eau. Mais dans cet environnement-là, depuis de nombreuses années déjà, on a spéculé que oui, certaines bactéries terrestres très particulières, celles qui sont capables de vivre dans des conditions extrêmement acides, c'est très acide, acide sulfurique, acide, pourraient survivre. Donc, on s'est mis à spéculer l'idée qu'il pourrait y avoir de la vie, d'autant plus que parmi les autres hypothèses, spéculations que l'on a dans notre besace, nous les chercheurs, c'est des pensées que Vénus, qui aujourd'hui est un enfer, en particulier la surface, il y a quelques milliards d'années, devait plutôt ressembler à la Terre. Il y avait peut-être un océan sur Vénus, la vie a peut-être émergé à cette époque-là, dans des conditions beaucoup plus favorables, et peut-être qu'elle a survécu dans ces nuages. Spéculation folle qui reste à prouver. Ça fait longtemps qu'on dit « Ah, spéculation folle qui reste à prouver ». Alors c'est sûr que quand on découvre un indice d'un gaz tout à fait étonnant, oui, on se dit « Ah, c'est intéressant, on a envie d'aller voir plus ».
Je ne vous demande pas de la valider, bien sûr. Il y a beaucoup, beaucoup de prudence, évidemment, avec cette information, même si vous avez entendu. La NASA nous parle de l'information la plus importante de l'histoire de la recherche de vie extraterrestre. Simplement pour se résumer, là on parle d'un gaz dans l'atmosphère de Vénus qui pourrait laisser penser qu'il y a des petits microbes, des petites bactéries qui vivent dans les nuages.
Oui, pour l'instant c'est extrêmement spéculatif et à double titre. Première question que l'on se pose, c'est est-ce que la détection est valable ? Parce qu'on est quand même on détecte des toutes petites quantités, on est vraiment à la limite de ce qu'on peut faire avec l'instrument.
Donc d'abord,
les instruments.
Est-ce que vraiment il y a de la phosphine ?
Voilà. Je connais des collègues qui sont sceptiques, qui n'y croient pas. Des spécialistes de cette méthode de détection.
Donc, mais ensuite, si elle y était.
Pareil, on se gratterait la tête parce qu'il resterait à démontrer qu'il n'existe pas des phénomènes naturels, on va dire non biologiques, qui peuvent produire cette phosphine. C'est très probable. Et donc, évidemment, tous les chercheurs, un peu spécialistes, vont essayer de trouver des mécanismes possibles. Vous imaginez des réactions chimiques étonnantes qui pourraient expliquer ça sans qu'il y ait besoin de vie. Et comme disait un des gourous de notre spécialité, qui s'appelle Carl Sagan, un américain, vous connaissez peut-être, il avait dit une phrase qui nous a tous marqués. Il avait dit une affirmation extraordinaire, donc l'annonce de vie sur Vénus, Vénus, réclame, demande des preuves extraordinaires. Donc on est très loin.
Encore.
Ouais, c'est comme une enquête.
Okay. Alors moi, je me remets à la place du profane et de nos auditeurs. Vous allez peut-être me dire, Mathieu, ça n'a rien à voir, vous n'avez rien compris, mais j'ai le souvenir d'annonces de ce genre-là au sujet de la planète Mars. On avait découvert du méthane sur Mars et on avait dit, bah, s'il y a du méthane, c'est qu'il y a de la vie ou qu'il y a eu de la vie.
Mais vous avez raison, c'est un très bon parallèle parce que c'est un peu la même histoire, un tout petit peu de gaz qui ne devrait pas être là. Et donc, on a fait exactement la même démarche. Et je dois vous dire que cette enquête s'est poursuivie. Et pour l'instant, à mes yeux, la conclusion, c'est que finalement, en fait, il n'y en avait pas. C'est-à-dire que cette détection, pourtant qui a été confirmée, entre guillemets, par différentes méthodes d'observation, au final, depuis, on a envoyé une sonde européenne, ça s'appelle le Trace Gas Orbiter, une mission de l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, et tout indique qu'en fait, quand on regarde vraiment avec des instruments bien plus sensibles que ce qu'on avait avant, bah, en fait, il n'y en a pas. Donc il est possible...
Donc il faut y aller, en fait. Si je vous écoute par rapport à ce qu'on a fait sur Mars, il faut y aller sur Vénus, alors.
Mais
on envoie des petits robots, on envoie des...
Oui, absolument.
Pourquoi on ne le fait pas depuis le temps? C'est notre voisine?
Non, mais on envoie des missions. Par exemple, dans les années 2000, là, on avait une très belle mission aussi de l'Agence Spatiale Européenne avec une forte participation française qui s'appelait Venus Express. Actuellement, vous avez une mission japonaise, par exemple, autour de Vénus qui observe, alors avec plutôt des moyens, vous savez, pour regarder les nuages, la météorologie, pas les bactéries. Mais on a dans nos cartons, on a des projets de missions en particulier. Moi, je dois dire que je travaille sur un projet de mission américaine qui n'est pas encore sélectionné. Il y a une chance sur deux, en gros, d'avoir une sélection, vous savez, finale. Et pour envoyer une sonde dans les nuages de Vénus, vers la surface, sous un parachute, avec des micro-laboratoires à bord. Et là, je dois avouer que cette découverte, je crois, motivera peut-être sa sélection.
Une sonde qui travaillerait jusqu'à toucher le sol et puis griller, c'est ça ?
Oui, qui survivra quelques... Ah oui, tout à fait. Qui survivra quelques dizaines de minutes à la surface, mais qui fera plein de mesures très rapides et les communiquera. C'est une mission très excitante. Et on a d'autres comme ça. On a d'autres idées, en particulier, par exemple, si vraiment on n'arrive pas à facilement confirmer ou pas la présence de phosphine, on a dans notre carton une collaboration avec les Indiens, d'Inde, qui ont le projet d'envoyer une mission autour de Vénus. Et dans ce contexte-là, on a l'idée avec des collègues russes d'envoyer un spectromètre capable de faire une détection très précise. Et un petit peu comme ce que je vous racontais sur Mars, prouver ou pas la présence de phosphine. Donc il y a plein
Vous nous faites rêver à la conquête spatiale, François Forget, ce matin, et repenser cette conquête en se dirigeant peut-être vers une autre voisine. On parle tout le temps de Mars. Eh bien, il y a cette autre voisine de l'autre côté, c'est Vénus, un peu plus près du Soleil. François Forget, merci beaucoup. Le planétologue François Forget, ce matin avec nous, directeur de recherche au CNRS, dans le tête-à-tête Europe Matin. Il est 7h48.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Avant 8h, on retrouve Nicolas Canteloup qui coach l'invité politique de la matinale ce matin, Adrien Quintenens, à 8h15 au micro de Sonia Mabrouk. Mais tout de suite, la Banque de France qui revoit ses prévisions de croissance à la hausse. Pour Nicolas Bétou, il faut tout faire pour relancer sans état d'âme l'édito politique dans une minute. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h51 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Bonne nouvelle, les économistes de la Banque de France ont révisé leurs prévisions de croissance dans le bon sens.
Oui, dans le bon sens. C'est-à-dire qu'ils pensent désormais que la récession, le terrible choc subi par notre économie, sera au total moins sévère cette année qu'ils ne l'avaient imaginé jusque-là. La plupart des économistes s'attendaient à un recul de 10-11%, diagnostic partagé d'ailleurs par Bruno Le Maire, qui ne cachait pas en même temps qu'il espérait que son plan de relance aurait un effet dopant dès cette année.
C'est donc le cas, et on peut s'attendre à quel chiffre ?
Moins 8,7%. Pire performance depuis la dernière guerre.
Mais c'est pas très réjouissant quand même.
Je vous le concède, non ? Mais voilà de quoi vous réconforter. Après le plongeon de cette année, on aura l'an prochain un boom de croissance de près de 7,5%, meilleure performance depuis la guerre. Enfin, en apparence, parce qu'on repartira de tellement bas que la progression ne permettra pas d'effacer tout le terrain perdu. Pour ça, il faudra attendre l'année suivante, le début de l'année 2022, précise même la Banque de France, qui a avancé de 3 mois ce moment où on pourra, ouf, se dire que cette catastrophe est derrière nous.
Début 2022, c'est un hasard, je veux dire. Tout le monde sait très bien ce qui va se passer en 2022. Avril 2022, l'élection présidentielle.
Bien vu. Mais non, il n'y a pas de loup. Les économistes de la Banque de France ne font pas de politique. Et je peux vous dire, pour bien le connaître, que le gouverneur de cette institution, François Villeroy de Galhau, préférerait avaler d'un bloc tous ses manuels d'économie plutôt que de faillir à sa réputation d'intransigeance et d'indépendance. Et puis, n'oublions pas que ce ne sont que des projections. Et comme le disait l'inégalable Pierre Dac, les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. C'est fragile donc.
Alors qu'est-ce qui peut contredire ce pronostic ?
À part une rechute grave due au Covid ou à part des événements internationaux par nature difficiles à maîtriser, le risque chez nous, c'est le manque de confiance. Pour l'instant, le plan de relance semble assez bien calibré pour soutenir l'économique et le social, ce qui peut créer un cercle vertueux. Mais le plus important, c'est la tendance de fond. Est-ce que les Français ont envie de croissance? Est-ce qu'ils ont intégré la nécessité d'investir, d'échanger, de commercer, d'aller chercher le progrès? Tout ça en respectant les impératifs de l'époque, bien sûr. Je pense en particulier à tout ce qui concerne la défense du climat. Mais sans progrès, pas de croissance. Regardez le débat sur la 5G. Bien sûr, aujourd'hui, on vit sans et on s'en passe. Mais lorsque cette accélération technologique aura fait émerger des quantités d'usages nouveaux et créer des entreprises et des emplois nouveaux, ceux qui auront fait le pari de la croissance pourront, preuves en main, se retourner vers les apôtres de la décroissance et leur demander des comptes.
Écoutez, vous allez entendre Nicolas Bétou, le président de la République, qui va dans votre sens. Il répondait à des entrepreneurs du numérique au sujet de ce débat sur la 5G. Il a clairement répondu.
La France, c'est le pays des Lumières. C'est le pays de l'innovation. Et beaucoup des défis que nous avons sur tous les secteurs, ils se relèveront par l'innovation. La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish.
Il fait bien d'aller dans
mon
sens.
Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine.
Emmanuel Macron qui écoute Nicolas Bétou, j'en suis sûr, à 7h55, tous les matins sur Europe 1, l'édito politique. Merci Nicolas, il est 7h54. De Nicolas le matin sur Europe 1. Il est l'heure de retrouver Nicolas Canteloup qui, à sa manière, coach l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk interviewera Adrien Quatennens, député de la première circonscription du Nord, coordinateur de la France Insoumise.
Oui, j'adore Nicolas Bétou lorsqu'il fait de l'humour en citant Pierre Dac. Oui, je reçois le jeune député Adrien Quatennens qui a déclaré récemment « Ado, j'ai eu moi aussi ma période joint et cheveux longs ». Ouh là là, attention, Gérald Darmanin ne va pas apprécier la drogue, il a dit Gérald Darmanin, c'est de la merde. À titre personnel, cher Mathieu, moi j'ai fumé une fois une Vogue Menthol. Je n'ai jamais été plus loin dans la défonce, voilà. Bref, vous savez mon cher Mathieu qu'Adrien Quatennens est passionné de rock and roll, tout comme vous cher Mathieu. Sauf que vous, capillairement, vous êtes plus... tendance Jim Morrison, lui, est plus Simply Red. Vous voyez bon, ce que je veux dire?
Oui, je crois que Jean-Luc Mélenchon vient justement pour coacher ouais. Adrien Quatennens.
Ouais, laissez-moi passer. Laissez-moi. La République, c'est moi. C'est moi. Oui, pardon, Médiard, oui. Non, mais j'ai pas besoin de coacher Quatennens. Hein, Adrien, il est très bon. C'est un vrai numéro 2. Hein, c'est un surdoué. Il est vif. Il est intelligent. Il est jeune. En fait, pour résumer, il est un peu pour moi ce que Macron était à Hollande, voilà. Et je peux vous... Merde, en le disant, je réalise que si ça se trouve, il va essayer de me ken ma place, là. Bon, moi, je reste à côté de lui, on sait jamais. Il n'a pas intérêt à bouger une oreille, petit con, va.
C'est signé Nicolas Canteloup, qui va conseiller toute l'année à sa manière l'invité politique de la matinale. Tous les jours, ce matin donc, Adrien Quatennens à 8h15 au micro de Sonia Mabrouk. Et Canteloup à 8h45 pour la revue de presque, bien sûr. À tout de suite. 7h59, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et avec les premiers nuages, les premières petites pluies, tiens, il pleut un petit peu dans les Landes, là, sur le sud des Landes en ce moment, il pleut un petit peu sur le Pays Basque, et puis nous avons sur l'ensemble des côtes atlantiques un ciel souvent couvert avec des brumes, des brouillards, enfin bref, c'est tout ceci est logique, hein, tout ceci était dans la prévision, donc on ne va pas s'en étonner. Le soleil reviendra sur cette partie de la France, cette partie des côtes notamment, il reviendra dans l'après-midi, alors que sur les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, le Midi-Pyrénées, la Basse-Normandie, le ciel va s'ennuager quelque peu et nous aurons aussi un temps souvent voilé sur la région parisienne, le Massif central, le Languedoc et le Roussillon. Bref, la partie ouest de la France sera sous un ciel souvent couvert, mais ça n'enlèvera pas l'impression estivale puisqu'il va faire très chaud et donc nous aurons un temps chaud et lourd sur la plupart des régions, les températures entre 27 et 35 degrés, 35 à Paris qui sera la ville la plus chaude.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous écoutez Le Monde Changé. Il est 8h sur Europe 1.
Ce sur quoi on insiste cette année, c'est que toutes les personnes qui sont visées par les recommandations se fassent vacciner effectivement.
Ça n'est pas un remède miracle, mais le vaccin contre la grippe saisonnière, s'il était plus utilisé que d'habitude, permettrait d'éviter une double dose de patients dans les hôpitaux cet hiver avec le Covid. Autre vaccin sous-utilisé, celui contre le chômage, baptisé activité partielle de longue durée. Les entreprises tardent à signer des accords. Dans ce journal, Donald Trump, qui promet le refroidissement quand on lui parle réchauffement climatique, le festin des scolytes, un scarabée tueur d'arbres qui dévore les sapins d'Alsace sans modération, et le cru 2020 des Bourgogne qui s'annonce exceptionnellement bon, même si là c'est avec modération.
Plan de relance, rassemblement à gauche, mais aussi débat sur la sécurité. L'invité politique d'Europe Matin à 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord. Très bon réveil à toutes et à tous avec Europe Matin. Il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est l'autre épidémie qui menace et qui fait habituellement 10 à 12 000 morts en France. On parle de la grippe qui risque cet hiver d'engorger les hôpitaux alors que l'on redoute une deuxième vague de Covid dans les services de réanimation. Contre le Covid, pas de vaccin pour l'instant, mais contre la grippe saisonnière, plus de 13 millions de doses commandées par le ministère de la Santé.
Anne Le Gall, c'est l'équilibre du système hospitalier qui est en jeu, d'où l'appel de nombreux médecins à vacciner bien plus massivement.
Il n'y a toujours aucune obligation, mais les plus de 65 ans, les personnes fragiles et les femmes enceintes sont encore plus fortement invitées à se faire vacciner contre la grippe cette année. Les industriels ont prévu 20% de doses supplémentaires. Et si les autorités sanitaires insistent particulièrement sur cette précaution, explique le professeur Elisabeth Bouvet, présidente du comité technique des vaccinations, c'est pour éviter que les hôpitaux ne soient débordés par une double épidémie.
L'idée et l'essentiel, c'est d'essayer de limiter au maximum les besoins en santé liées aux complications de la grippe. Donc ce sur quoi on insiste cette année, c'est que toutes les personnes qui sont visées par les recommandations se fassent vacciner effectivement, ce qui n'est pas le cas habituellement puisqu'on n'est qu'à à peine un peu plus de 50% de la population qui est effectivement vaccinée.
Le vaccin n'est efficace qu'à 60 ou 70%, c'est vrai, mais le personnel soignant est aussi invité à faire un effort, car un tiers seulement se fait habituellement vacciner contre la grippe. Pour les personnes en bonne santé, en revanche, aucun intérêt supplémentaire à cette vaccination. L'injection antigrippale ne booste pas l'immunité contre le coronavirus.
Hier, de nouvelles restrictions ont été annoncées à Bordeaux et Marseille, limitant les rassemblements, les fêtes, les sorties scolaires, les visites dans les EHPAD.
Les soirées étudiantes aussi sont visées, alors qu'on est en pleine rentrée dans le monde universitaire. Coup dur pour les traditionnels week-ends d'intégration.
Oui, comme Benjamin Péter l'a constaté à Toulouse, les nouveaux étudiants n'auront pas droit à ce petit rite de passage.
Là, ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas eu de cours, en sachant qu'ils n'ont pas dû passer le bac. Plein de facteurs qui font que c'est encore plus compliqué pour eux qu'une rentrée habituelle.
Alors pour les 3000 étudiants de première année qui ont fait leur rentrée, Katia Rompopoulou, la présidente de la Corpo Science, n'a pas l'intention de bâcler leur intégration. D'habitude, pendant une semaine, l'association enchaîne jeux, barbecue, blind test, soirée et même saut à l'élastique au-dessus du campus. Cette année, ce sera plus sobre, mais tout l'été, ils ont cherché comment adapter leurs événements.
Pour nous, nos soirées d'intégration, en général, on les faisait en boîte. Cette année, on ne peut pas du coup. On va quand même essayer de faire un équivalent dans des bars en plein air. Le barbecue, ça va pas du tout être un barbecue classique comme on l'entend, mais c'est le restaurant, donc avec des tables et un système de commande. En sachant que les associatifs qui vont servir ces étudiants auront eu une formation par rapport au service pour qu'il n'y ait aucun risque. On a trouvé des moyens pour pouvoir mettre en place des événements, même si c'est plus limité. Pouvoir quand même accueillir ces étudiants, les faire se sentir bien et pas seul, quoi.
Le traditionnel week-end d'intégration, lui aussi, n'aura pas lieu. Ils réfléchissent à le remplacer par une journée, mais seulement si la situation sanitaire le permet, puisque Katia en a bien conscience. Tous ces événements, même distanciés, pourraient être annulés si le protocole devait se durcir. À l'université Paul Sabatier de Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Au cœur du confinement, il y a eu jusqu'à 9 millions de Français au chômage partiel, un filet de sécurité qui a permis d'éviter les licenciements.
Mais aujourd'hui, de très nombreuses entreprises n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant-crise, on redoute faillite et plans sociaux, alors qu'il y a un moyen de l'éviter dans de nombreux cas grâce à l'activité partielle de longue durée. Le principe, les salariés travaillent moins, mais touchent 84% de leur salaire net grâce à une aide de l'État. Pour cela, il faut signer un accord, Olivier Samin. C'est là que ça tarde à monter en puissance.
Il y a eu Safran, il y a eu Bosch, ça c'était cet été, mais depuis, plus grand-chose. Dans beaucoup de secteurs, les entreprises préfèrent s'en remettre à un accord de branche. Les PME notamment, qui ne sont pas outillées pour mener une négociation. Sauf qu'au niveau des branches aussi, il y a du retard à l'allumage. L'accord dans la métallurgie, conclu fin juillet, et celui, la semaine dernière, dans la branche Syntec, la branche des bureaux d'études, d'ingénierie et des sociétés de conseil, ces accords font un peu figure d'exception. Et pourtant, comme l'explique le directeur général de la fédération Syntec, Mathieu Rosy, l'enjeu est de taille.
On estime, si rien n'est fait dans la branche, le potentiel de licenciement sur les 2-3 prochaines années de 70 000 à 100 000. Vous dire Combien précisément de licenciements vont être évités grâce à cet accord, je ne le peux pas. Mais on sait que sur ces 70 000 pertes potentielles, une partie non négligeable va se trouver sauvée grâce à ce dispositif.
Les hôtels, cafés, restaurants pourraient être le prochain secteur à conclure un accord. La négociation va démarrer la semaine prochaine et patronat et syndicats veulent aller vite. Même chose dans le secteur de la propreté. Mais d'autres grandes branches sont plus en retrait. Le bâtiment, par exemple, ne s'interdit pas d'ouvrir une négociation, mais laisse plutôt faire pour l'instant les entreprises. Le textile, quant à lui, songe à s'y mettre, mais n'a pas encore de mandat sur le sujet.
Des grands patrons demandent de clarifier la transition vers le zéro émission. Ils sont 150 PDG et pas forcément les moins pollueurs de la planète.
Total, Coca-Cola, Volvo, Philip Morris, H&M ou encore Apple qui demandent aux dirigeants européens une réduction de 55% au moins des émissions de CO2 d'ici 2030. Cela nous donnerait la confiance nécessaire, disent-ils, pour investir de manière décisive. Lui a une nouvelle fois laissé parler son climato-scepticisme. Donald Trump, interrogé par un agent de protection des ressources naturelles de Californie, à propos des incendies géants et du réchauffement de la planète, le président des États-Unis s'est montré assez sûr de son fait.
Ça finira par se refroidir, vous allez voir.
J'espère que la science est d'accord avec vous.
Oh, je ne pense pas que la science le sache, en fait.
Et ce que la science sait à travers les relevés des thermomètres et des pluviomètres, c'est que la chaleur et la sécheresse qui sévissent sur de nombreuses régions françaises.
En Alsace, le manque d'eau favorise le développement de scarabées qui nuisent aux sapins, une véritable hécatombe, alors que le budget de très nombreuses communes rurales repose sur l'exploitation du bois.
Un reportage d'Arthur Mbaché à Cévennes, dans le Haut-Rhin.
Il suffit de lever les yeux et puis vous voyez les dégâts que la sécheresse nous fait d'année en année. On n'a plus que les yeux pour pleurer, quoi, je veux dire.
Les taches grises et beiges étendent leur emprise sur la forêt. Ici, à Cévennes, comme partout ailleurs dans le massif des Vosges, la sécheresse tue les arbres. Déjà 30% des 1400 hectares de la commune, assure le maire Hubert Flure. Aujourd'hui, la forêt vous rapporte zéro ?
Très très peu. C'est de l'ordre de 20% de ce que c'était il y a 10 ans. On a une petite ruelle à Cévennes qui demande à être macadamisée, à être mise dans les normes. Mais ça fait des années que ça traîne et puis chaque année on repousse parce qu'on n'a pas les finances. Ça va être ric-rac. On sera au ras des pâquerettes dans les années à venir, quoi.
25 euros le mètre cube de bois contre 70 en temps normal. Et encore, ça semble bien dérisoire à entendre Jean-Christophe Villaume de l'Office national des forêts.
Tu dis ça va aller mieux cette année ? Ben non, rebelote, resécheresse pendant le confinement. Là. Après, ça va un peu mieux en juin. Là, juillet, le plus sec depuis je ne sais pas combien de temps. On est en septembre, il fait encore 31 degrés. Ça sent vraiment le sapin. Hein.
Si les prévisions se confirment, ajoute le forestier, plus 8 degrés en 2100, il n'y aura plus que des cailloux. Ici, dit-il, ce sera le Pakistan, dans une vallée encore à peu près verdoyante. Arthur Mbaché, Europe 1.
Vous restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. L'Algérie et la dérive du pouvoir contre la liberté de la presse.
Et puis nous ferons un détour dans les vignes bourguignonnes où l'on compare déjà 2020 aux plus grandes années.
A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
C'est aujourd'hui que le journaliste algérien Khaled Drareni, ancien correspondant d'Europe 1, connaîtra le verdict de son procès en appel pour atteinte à l'unité nationale. 3 ans de prison ferme en première instance. Reporters sans frontières réclame sa libération immédiate en raison de son état de santé.
Plus globalement, en Algérie, la répression contre les médias inquiète de plus en plus. Écoutez le reportage de Nour Chahine.
Il ne se souvient pas d'avoir connu pire période pour la liberté d'expression en Algérie. Khadi Hassan est à la tête d'un site d'information et d'une web radio, tous deux bloqués par le pouvoir. Depuis la fin du Hirak, il fait partie d'un collectif de soutien pour les journalistes emprisonnés.
Aujourd'hui, il y a 8 journaux en ligne qui sont coupés au lectorat algérien. Il y a un harcèlement des derniers médias papiers de la grande période glorieuse des années 90. Et évidemment, l'audiovisuel en Algérie est complètement sous la chape du régime. Jamais, jamais, depuis de longues années, la presse algérienne n'a été autant réprimée.
Des partis politiques et des membres de la société civile dénoncent l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir. Un constat partagé par l'avocate et activiste Zobida Assoul.
Toutes les poursuites qui ont été faites contre les hirakistes, les activistes, les politiques, les journalistes sont des poursuites purement politiques parce qu'on veut faire taire les voix discordantes, on veut faire peur aussi aux journalistes, aux politiques, aux activistes de ne pas continuer. Ce qui intéresse le pouvoir, c'est d'étouffer le Hirak.
Le Hirak aura permis le départ de Bouteflika après 20 ans de règne. À ce jour, cela semble être le seul et unique acquis de la révolte populaire en Algérie.
Autre procès qui commence aujourd'hui au Japon. L'ancien bras droit de Carlos Ghosn, Greg Kelly, plaide non coupable ce matin, accusé d'avoir volontairement oublié de déclarer 73 millions d'euros que Carlos Ghosn était censé toucher plus tard. Le procès doit durer 10 mois.
Et on vous emmène donc dans le vignoble bourguignon. Lui a profité de conditions climatiques idéales, en tout cas pour le développement de la vigne.
Oui, résultat, le vin de 2020 sera divin, Jean-Luc Boujon.
Au Clos Vougeot, prestigieuse appellation des Côtes de Nuit, les vendanges démarrées le 24 août sont déjà terminées depuis une semaine. Les vendanges les plus précoces de l'histoire avec un raisin parfait selon François Labbaye, propriétaire du château de la Tour.
Oui, c'est bon. C'est un raisin qui est sain, qui ne présente aucune trace de mildiou, d'oïdium ou de pourriture. Je pense que 2020 est un très beau millésime. Les blancs sont déjà très précis, très belle minéralité. Pour les rouges, des nuits fraîches nous ont apporté cette acidité qui va rendre les vins très agréables. Vraiment le pinot qu'on boit avec plaisir en disant « Ah, c'est vachement bon, redonne-moi un autre verre ».
2020 ressemble même carrément à l'année parfaite en Bourgogne. Pour la première fois depuis longtemps, les vignobles n'ont été touchés ni par le gel du printemps ni par la grêle de l'été, explique Xavier Monod, vigneron à Meurthe.
Grâce à Dieu, on a été épargné cette année. On a un beau millésime en cave. La chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu des petits arrosages pendant l'été, ce qui a permis à la plante de bien résister à la sécheresse. Ce qui fait qu'à l'arrivée, on a vraiment un beau millésime dans les deux couleurs, dans la même lignée que 89, 90, 85. Des très très grands millésimes.
De belles perspectives donc, un peu perturbées tout de même par la crise sanitaire qui a fait baisser les exportations, notamment vers les États-Unis et l'Angleterre. Meursault, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Et on entendait la satisfaction gustative de ce vigneron, ça promet.
Ça promet, on va attendre, on va patienter un petit peu. François Gépris, merci beaucoup. C'était le journal de 8h sur Europe 1, il est 8h13.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Les policiers ne sont pas des ennemis, a déclaré hier Jean-Luc Mélenchon. La France insoumise entame-t-elle un virage sur la sécurité? Ça sent la présidentielle qui se rapproche sur ce sujet et d'autres. Le député coordinateur du parti, Adrien Quatennens.
Merci Sonia Mabrouk. À tout de suite sur Europe 1, il est 8h13.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'invité politique d'Europe Matin, votre invité Sonia Mabrouk, c'est Adrien Quatennens, député de la France Insoumise du Nord.
Bienvenue à vous et bonjour Adrien Quatennens.
Bonjour.
Votre parti a tenu hier un colloque sur la sécurité. Est-ce que pour la France Insoumise, un bon flic est un flic désarmé?
Ce serait vraiment résumer un propos qui est beaucoup plus général que ça. Non, parce qu'il s'agit de dire, bon d'abord le sujet de la sécurité, nous le traitons depuis... La campagne présidentielle de 2017, il y avait déjà un livret très complet sur la sécurité. Je sais qu'on n'est pas toujours observé à bon escient, parce que sur le fond, on travaille beaucoup. Ce que nous avons fait hier, c'est plaider pour un retour à la raison, en quelque sorte. On assiste à une espèce de surenchère sécuritaire qui ne correspond pas à la réalité. Évidemment, la délinquance est insupportable, mais en réalité, il n'y a pas de France orange mécanique, comme l'écrivent certains journalistes maquillés sous pseudo, ou comme le dit l'extrême droite, qui d'ailleurs... se voit suivre de près sur ces thématiques par M. Darmanin.
Et est-ce qu'il y a des violences policières?
Oui, attendez, juste, pour pas mettre un petit propos. Oui, ça existe, bien sûr, on le voit bien. Oui, il y a des violences policières. Quand dans les manifestations, il y a 32 yeux crevés et 5 mains arrachées, oui.
Alors, vous faites donc peser une présomption de culpabilité sur les policiers?
Non, attendez, on ne va pas résumer à la simple propos. Je résume, la police dans ce pays... est très mal utilisée. Voilà ce que nous disons. Depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, elle est trop utilisée pour la répression des mouvements sociaux, par exemple. Et on voit que sous Emmanuel Macron, par exemple, manifester, qui était un droit, est devenu un acte de résistance, en quelque sorte. Ça n'est pas normal. Mais surtout, ce que nous voyons, c'est que la police n'est pas assez occupée à lutter contre le grand banditisme. Vous savez, Sonia Mabrouk, derrière la petite délinquance qui rend difficile la vie de beaucoup de gens. On a des réseaux, on a des trafics,
Monsieur
le
Quatennens.
Trafic de drogue,
oui.
Le trafic d'armes.
Bien sûr,
et beaucoup d'argent dont
pour
on
lutter
parle
contre
jamais.
La délinquance, il faut être armé. Donc vous revenez complètement non, sur la phrase de Jean-Luc Mélenchon qui estimait il y a quelques semaines, quelques mois, qu'il faut une police aussi désarmée que possible pour qu'elle inspire le respect.
Ah ben voilà, aussi désarmée possible, ça ne veut pas dire désarmée, c'est Mabrouk. Ça veut dire que par
à
exemple.
À quel niveau vous
cas,
placez la jauge de l'armement
exemple,
de la police?
Dire les choses, il y a des corps dans la police. Vous savez, par exemple, quand on a le cas des affrontements avec les bandes armées à Dijon, les Tchétchènes, c'est pas les gardiens de la paix qu'on envoie faire face à des bandes armées. C'est d'autres services de gendarmerie, par exemple, que l'on convoque. Donc nous appelons à un retour à la raison. D'abord dire une chose, non, il n'y a pas d'emballement sur ces sujets en France, autre que médiatique. Quand vous posez la question aux Français, y a-t-il un problème de sécurité en France?
Ce sont les médias.
Quand vous posez...
Ce sont les médias qui...
Écoutez,
ce sont les médias qui grossissent les tirs de mortier à Paris.
Non,
ce sont les médias qui grossissent quand un chauffeur de bus est lâchement agressé.
Absolument
ce
pas.
Sont les médias.
Sonia Mabrouk.
Quand une gendarme,
que vous citez,
Mélanie Lemay, est
c'est insupportable.
Tuée par
c'est
un multirécidiviste chauffeur.
Tout ce que vous citez est terrible. D'accord ? La délinquance, les faits de violence, les délits que vous citez sont terribles. Mais nous interrogeons l'efficacité des politiques qui sont menées depuis toutes ces années. Quels résultats sont ceux de Gérald Darmanin, de M. Valls avant lui, de M. Castaner. Nous voyons une chose, quand vous posez la question aux Français « Y a-t-il un problème de sécurité en France ?», 85% vous répondent « Oui ». Et quand vous posez la question « Mais vous, madame, monsieur, Avez-vous eu dans votre vie à connaître un problème d'insécurité ? Vous avez la proportion inverse qui vous répond. Donc d'abord, vous dire, premièrement, retour à la raison sur les faits. Ensuite, comment lutte-t-on ? Parce que je ne veux pas éluder le problème. Comment on lutte véritablement contre la délinquance ?
Juste une question, M. Katnin, sur les faits. Peut-on être élu de la République comme vous et prendre part à la même manifestation que l'une des figures du mouvement des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, qui a qualifié les policiers de nazis ?
Attendez, s'il vous plaît, on va parler des Gilets jaunes après. Laissez-moi finir un propos sur ce qu'il s'agirait de faire pour la police, s'il vous plaît. Parce que sinon, on ne peut pas comprendre. Mais si vous passez toutes les 30 secondes à couper un raisonnement politique, ce n'est pas possible de défendre une vision qui est cohérente.
Je vous demande si vous condamnez sur les policiers un propos qui les qualifie de nazis. Nous parlons de la sécurité, donc je vous demande si par rapport aux policiers, vous vous désolidarisez de cette phrase.
C'est mal inspiré, effectivement, de traiter les policiers de nazis. Mais oui, mais par contre, qu'est-ce que vous avez à dire contre le fait que Jérôme Rodriguez ait payé de sa chair, avec un œil crevé, le fait d'avoir manifesté pacifiquement ? D'accord ? Donc maintenant, un instant.
Ça lui permet de dire que les policiers sont des nazis ?
Si franchement, vous m'invitez sans me laisser la capacité à expliquer clairement ce que nous proposons, y compris pour refonder de fond en comble la police, on ne va pas s'en sortir. Donc je vous demande de me laisser un court instant pour vous expliquer
quelle est notre doctrine. Je vous laisse, mais je note que vous ne vous désolidarisez pas de cette phrase.
Franchement, c'est ridicule, là.
Je pense que c'est important pour un élu de la République comme vous.
Écoutez-moi. Il y a un problème de sécurité en France qui est surévalué par une surenchère sécuritaire qui ne permet pas la raison. Comment règle-t-on le problème ? Je vous l'ai dit, la police est trop mal utilisée, trop utilisée à la répression des mouvements sociaux, pas assez à la lutte contre le grand banditisme. Nous voulons refonder la police de fond en comble. La police doit être la police républicaine. Quand elle encadre des manifestations, elle ne doit pas se vivre, parce que les ordres sont les suivants, comme adversaire de la manifestation. Elle est là pour encadrer et permettre que dans ce pays, on exprime des revendications. Pour lutter contre la petite délinquance, il nous faut le retour de la police de proximité. Pacifier les relations entre la police et la population. Faire en sorte que les gens connaissent leur territoire. C'est extrêmement important. Et puis dire une chose, c'est que derrière les surenchères sécuritaires et les coups de menton, les effectifs de la police ont été ratiboisés. Sonia Mabrouk, la France insoumise est tellement anti-flic qu'elle veut en recruter 10 000 de plus, d'accord ? Parce que les effectifs ont fondu comme neige au soleil depuis 2007. Nous voulons 5 000 agents administratifs de plus. Nous voulons réintroduire le code de déontologie de la police. Parce que dans police républicaine, Sonia Mabrouk, il y a république et ça a du sens.
Et je vous repose la question maintenant qu'on a écouté vos propos de fond. Est-ce que l'élu de la République que vous êtes, puisque vous placez, vous avez tellement raison, la République si haut, est-ce que condamne les propos de quelqu'un qui dit que les policiers sont des nazis ?
Évidemment, ces propos ne sont pas bien inspirés, je le dis. Pour autant, et ça n'est pas un mais, Jérôme Rodriguez est un gilet jaune qui a payé de sa chair. Sonia Mabrouk, si vous aviez, vous, manifesté pacifiquement et que vous étiez retrouvé comme lui avec un œil crevé, peut-être que la rage que vous ressentirez en vous serait peut-être plus importante que la sienne. Vous n'en savez rien.
Il y a des propos qui sont condamnables,
bien sûr,
mais
ni vous ni moi ne pouvons dire ce que ressent Jérôme Rodriguez dans sa chair. C'est une catastrophe. Et les gilets jaunes, puisque vous en parlez, les gilets jaunes, malgré toutes les imperfections des observateurs sur ce mouvement, malgré toutes les contradictions qui sont finalement les contradictions qui traversent le peuple français, c'est un mouvement populaire qui dit quelque chose du moment que nous vivons. C'est le peuple qui veut se réapproprier sa souveraineté. Et voyez-vous, pendant qu'on fait des caricatures sur une minorité au sein de ce mouvement, moi ce que je préfère dire, qu'on ne dit jamais ou trop souvent, trop peu à la télévision par exemple, c'est le slogan des gilets jaunes qui était le suivant, Sonia Mabrouk, quand il disait « Sur les ronds-points, nous avons retrouvé la fraternité ». Nous partons à la conquête de la liberté et de l'égalité.
Autre sujet,
voilà,
monsieur
qui me paraît assez important.
Dans un récent sondage, 76% des Français se déclarent favorables au projet de loi sur le séparatisme. Est-ce que vous faites partie de cette majorité ?
D'abord, il s'agirait de savoir de quoi on parle. Parce que, Sonia Mabrouk, s'il s'agit de parler de la lutte contre l'obscurantisme et contre les fanatismes, eh bien, il y a déjà ce qu'il faut dans la loi pour lutter contre. Je crois que l'agitation de ces sujets ne sert absolument pas la cause républicaine.
Est-ce qu'il n'y a pas, selon vous, une offensive communautariste quand l'entrisme islamiste, puisqu'il faut le noter, progresse partout dans les services publics ?
Alors, d'abord, dire une chose, c'est que c'est notamment là où la République recule que d'autres peuvent avancer. Quand, dans beaucoup de quartiers, le tissu associatif est dilapidé, quand les services publics reculent, voire disparaissent tout court, on ne parle pas assez de la prévention, Sonia Mabrouk. Moi, vous savez, puisqu'on parlait de sécurité, notre triptyque est clair en la matière. C'est prévention. D'abord la prévention, les éducateurs de rue, les associations, tout ce que l'on n'a plus, la répression à juste mesure et la réparation pour ceux qui ont eu à subir des actes. Il y a dans la loi déjà des dispositifs législatifs qui permettent de lutter contre les discours obscurantistes. Voilà, le plus important dans la période, face aux grands défis que nous avons devant nous, c'est l'unité du peuple en France, Sonia Mabrouk.
Qu'on ait besoin de plus de services publics, c'est une chose, mais je vous reformule ma question. Est-ce que le député que vous êtes constate qu'il y a un entrisme islamiste qui progresse dans les services publics ? Et je fais référence à l'excellent livre de votre confrère, d'ailleurs Éric Diard, qui montre à quel point les services sont noyautés aujourd'hui, publics.
Qu'il y ait ça et là des replis communautaires qui s'expliquent, oui, c'est évident. Mais on peut lutter contre avec le dispositif législatif qui existe déjà et l'on n'est pas obligé de faire de tous les musulmans de ce pays des suspects potentiels. Voilà, je veux le dire, parce que c'est extrêmement important
qui
de rappeler cela. Comment ?
Qui le fait ?
Bah écoutez, voyez bien l'ambiance que l'on a en ce moment dans le pays. On a l'impression que parfois les victimes de racisme en sont quelque part coupables. Moi, je veux rappeler une chose, puisqu'on est dans le cadre du procès des attentats de Charlie Hebdo. Sonia Mabrouk, ceux qui ont commis ces actes contre la rédaction de Charlie Hebdo, ceux qui ont commis les attentats dont nous avons eu à souffrir en 2015, poursuivaient un objectif politique. Instaurer en France un clivage entre les musulmans et le reste du peuple en France. Eh bien, parfois, je m'inquiète de voir, dans l'ambiance, y compris médiatique qu'il peut y avoir, qu'ils sont en train de prendre la main et que nous leur avons donné le point. Ce qui est important, Sonia Mabrouk, c'est de répéter, l'objectif,
vous dénoncez
c'est
des complicités, j'entends, médiatiques, c'est assez grave
dénonciation. Je dis une chose, Madame Mabrouk, quand quelqu'un comme Éric Zemmour, par exemple, continue à avoir pignon sur rue sur une chaîne que vous connaissez bien et instaure cette ambiance de choc des civilisations, quelque part, c'est aussi donner le point à ceux qui visent cet objectif. Sonia Mabrouk, ceux qui se sont attaqués à la rédaction de Charlie Hebdo, je le répète, poursuivaient un but politique. Écoutez-moi jusqu'au bout.
Instaurer en France un clivage entre... Êtes-vous l'arbitre des élégances ? Dites-nous qui doit être recruté ou pas. Est-ce que vous êtes pour la liberté ou est-ce qu'il faut un oui mais à chaque fois ?
Je suis pour la République en France et la République en France, c'est l'unité du peuple face aux grands défis que nous avons à affronter.
Alors
voilà ce que je dis.
Vous soutenez totalement sans oui mais et sans faille Charlie Hebdo de nouveau menacé après la réédition des caricatures de Mahomet ?
J'espère qu'on va garder un petit peu de temps pour parler du plan
de
relance.
Il me semble important de parler des nouvelles menaces sur Charlie Hebdo. Est-ce que votre soutien est sans faille, sans oui, mais il fallait rééditer les caricatures ?
Mais je les soutiens absolument. Notre liberté d'expression n'est absolument pas négociable. Et qui plus est, vous savez, la rédaction de Charlie Hebdo, elle a fait partie de ceux qui, quand j'étais adolescent, ont concouru à mon engagement en politique. Ils étaient tous les combats antiracistes, tous les combats pour les sans-papiers, le mal-logement.
Qu'est-ce qu'on aimerait entendre tous les membres de la France Insoumise le dire aussi clairement que vous ?
Eh bien, invitez-les tous l'un après l'autre,
vous
n'aurez aucun problème.
Vous savez, on a entendu parfois leurs propos.
Oui, oui, eh bien, quel est le problème ?
Il n'y a aucun virage indigéniste à la France Insoumise ?
Il y a uniquement les insinuations de gens comme vous qui le laissent entendre.
C'est une question, monsieur le député.
Oui, moi je vous réponds.
Eh bien, elle est claire. La question, donc ? Pas de virage indigéniste ?
Mais qu'est-ce que ça veut dire, le virage indigéniste ? Vous avez devant vous un républicain, convaincu, conséquent. Vous savez, Sonia Mabrouk, la laïcité et la République, je crois que nous l'incarnons mieux que beaucoup de ceux qui en parlent à longueur de journée et qui la méconnaissent complètement. Quand Emmanuel Macron fait un discours sur la République qui dilapide tout l'héritage révolutionnaire de la République, quand certains utilisent la laïcité comme un mot honorable pour détester une seule religion, ça n'est pas la laïcité. Mmh. Vous savez me définir la laïcité, Sonia Mabrouk ?
Ouais, la laïcité, point, je la définis.
Eh ben,
mais
la laïcité,
c'est vous
moi...
qui êtes interrogé,
non, la laïcité,
Katnas.
Moi, je la définis.
Nous n'allons pas nous engager
non, mais
dans un
une
débat.
Bonne fois pour toutes. La laïcité, c'est un pilier de la République parce que c'est la garantie de l'unité du peuple en France. Vous entendez ça ? L'unité du peuple en France.
Et est-ce que
et donc,
tous
ces quelques
à gauche
principes,
sont
j'en
d'accord
termine,
sur votre définition,
mais
monsieur Katnas ?
En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas plusieurs définitions de la laïcité.
Est-ce que monsieur Mélenchon, peut-être sur ce sujet et d'autres que nous venons d'aborder, le candidat commun de la gauche en vue de 2022 ?
Bon, attendez, d'abord, je termine. La laïcité, c'est donc... aucune discrimination, nous sommes égaux en droit, et la séparation stricte, entendez-moi, du politique réservé au domaine public et de la religion réservée au domaine privé. Et de ce point de vue, parmi ceux qui pérorent la laïcité, il y a des tartuffes de la laïcité, comme par exemple quand M. Macron décide de se faire sacrer chanoine de Latran et d'accepter ce titre de curé d'honneur du pape. Alors ensuite, vous posiez une autre question. On va parler un peu du plan de relance, de la situation sociale, du fait, Sonia Mabrouk, par exemple, que dans ce pays qui est riche comme tout, on a 10 millions de pauvres, 3 millions de jeunes pauvres.
On
pourquoi
conclure,
n'en parle-t-on pas
Monsieur
ce matin
Katnas.
Attendez, est-ce que vous savez, Sonia Mabrouk, vraiment c'est important, parce
permettez-moi d'avoir la liberté
sujets,
de mes questions.
Évidemment, mais puisqu'on avait dit qu'on parlerait notamment du social, Sonia Mabrouk, entre mars et mai, les 25 personnes les plus riches du monde se sont enrichies de 255 milliards d'euros. D'accord ? C'est-à-dire qu'elles ont gagné toutes et tous 13 000 euros par seconde, ce que met un smicard à gagner en 11 mois. Et pendant ce temps, vous voulez
vous
qu'on parle
de
quoi ?
De
vous voulez
dénoncer.
Qu'on passe un quart d'heure à parler des sujets qui divisent le peuple français,
pas du
alors
tout,
que vous avez
Katnas,
devant vous un républicain qui est clair et un laïc. Oui, qui inquiète.
Mais ça vous permet de clarifier vos positions,
parce que beaucoup finalement
Katnas,
à créer cette
on arrive
ambiance.
À la fin de cet entretien.
Oui.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Je pense que
vous
Jean-Luc
une bonne
Mélenchon
journée.
Ferait un excellent candidat en 2022 et qu'il pourrait être, pourquoi pas, le candidat commun de plusieurs forces dès lors qu'il y a la clarté sur le fond de ce que nous avons à proposer.
Bonne journée à vous, ainsi qu'à
à
nos
vous
auditeurs.
Aussi.
Merci Sonia Mabrouk, à suivre l'info et le journal du Tour. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h32 sur Europe 1, on part sur les routes du Tour.
Tout de suite, retrouvez le journal du Tour avec Total Direct Énergie. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Le journal du Tour avec vous, Marguerite Lefebvre. Bonjour Marguerite.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Tous les coureurs du peloton ont été testés hier, on attend ce matin les résultats.
Oui, les résultats devraient tomber d'ici midi. Les coureurs et tout le staff des équipes ont été testés une nouvelle fois lors de la deuxième journée de repos hier. Et on rappelle la règle, hein, si deux cas sont déclarés dans une même équipe, eh bien ce sera l'exclusion. Cette équipe ne pourra pas prendre le départ de la 16e étape. On vient d'apprendre il y a quelques minutes que le patron du Tour de France, Christian Prudhomme, qui avait été testé positif lors de la première journée de repos, eh bien il sera de retour aujourd'hui sur le Tour de France pour cette 16e étape, cette nouvelle étape de montagne entre la Tour du Pin et Villard-de-Lans. 5 ascensions donc tout à l'heure dans le département de l'Isère, chez Nance Peters qui lui court à domicile aujourd'hui. Le coureur d'AG2R, la mondiale, a déjà remporté une étape sur ce tour et forcément il aimerait bien briller chez lui.
C'est sûr que j'aurais à cœur de briller. Après voilà, entre l'avoir coché et réussir à prendre la bonne échappée pour ensuite espérer pouvoir jouer la victoire, courir comme il faut, c'est pas si évident que ça. Tout le monde a soif de victoire, il reste très peu d'opportunités, donc il va y avoir une grosse bagarre pour prendre l'échappée. J'espère y être, mais rien n'est écrit encore.
Et le début de la bagarre sur cette 16e étape 100% iséroise, ce sera à 13h05 tout à l'heure.
Il y a la bagarre donc pour les étapes et puis le classement général. Roglic est toujours maillot jaune et côté français, on est un peu déçus.
Et oui, le premier français, Guillaume Martin, est aujourd'hui 11e du classement général. Aucun français dans le top 10 depuis la 13e étape. Ça n'était pas arrivé depuis 10 ans, mais ça n'enlève rien à la motivation de Guillaume Martin que l'on a joint hier par visioconférence.
Les sensations sont toujours bonnes, je ne me sens pas particulièrement fatigué, donc motivé pour partir à l'abordage de la dernière semaine. Je ne perds pas l'espoir de pouvoir lutter. En tout cas, j'ai envie d'être plus haut. C'est sûr que je ne me contenterai pas d'une 11e place au général à l'arrivée. Donc voilà, en tout cas, c'est l'ambition sur la dernière semaine que de remonter au classement et puis au passage, pourquoi pas viser une victoire d'étape. Donc en tout cas, oui, aujourd'hui, je me sens plutôt bien.
Guillaume Martin, qui est donc aujourd'hui 11e du classement général, il est à un peu plus de 5 minutes du podium.
Merci, c'était le journal du Tour avec Marguerite Lefebvre. La 16e étape du Tour de France entre la Tour du Pin et Villard-de-Lans est à suivre, comme chaque jour, en fil rouge sur Europe 1 et sur Europe1.fr.
La passion du vélo à chaque étape, c'était le journal du Tour avec Total Direct Énergie. Un maximum d'économies sur l'électricité et le gaz. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Le temps avec vous, Laurent Cabrol.
Oui, avec un temps souvent nuageux sur les côtes de la Manche, sur les côtes de l'Atlantique, pardon. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y avait quelques pluies du côté des Landes et sur des nuages et des brumes et des brouillards sur l'ensemble des autres côtes, toujours sur l'Atlantique. Et nous avons des températures qui, cet après-midi, vont vraiment grimper au point qu'elles atteindront les 27 à 35 degrés, quasiment autant qu'hier. 35 à Paris, 34 à Lille, 31 à Marseille et 27 du côté de Caen. Si je donne ces températures, c'est tout simplement pour vous indiquer, chers amis, que quelle que soit la couleur du ciel, l'impression estivale prévaudra. Alors certes, il y aura des nuages sur la partie ouest, sur les côtes atlantiques comme j'indiquais, mais aussi à l'intérieur des terres, et nous aurons un temps beaucoup plus dégagé sur toute la partie est du pays. Bon, voilà, c'est une journée d'été, mais dans une dimension un peu plus nuageuse qu'hier, mais ça reste quand même une belle journée d'été.
Merci beaucoup Laurent.
Europe 1, Mathieu Béliard.
8h36 sur Europe 1, il est l'heure de prendre soin les uns des autres. Notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. Arrêtez de retenir vos éternuements, c'est pour votre bien, vous allez l'entendre. Et puis notre planète, Fanny Agostini, attention danger. 3 Français sur 4 utilisent des pesticides à la maison. Oui, dans la maison. Nicolas Canteloup, la revue de presse, que 9h moins le quart. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h38 et c'est l'heure de votre rendez-vous dans Europe Matin, rendez-vous avec le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Notre santé est avec vous. On va revenir sur un geste qui paraît banal mais qu'on n'ose plus tellement faire en public. Éternuer. Tiens, ça paraît bête mais est-ce que c'est dangereux Jimmy pour la santé de se retenir d'éternuer ?
Eh bien oui, figurez-vous. Eh bien je vais raconter l'histoire d'abord d'un jeune homme de 34 ans qui, après avoir éternué, s'est plaint d'une douleur au niveau de la gorge et de la poitrine. Il a décidé de consulter. Évidemment, les médecins étaient un peu dubitatifs et lorsqu'ils l'examinaient, ils avaient l'impression d'entendre un petit craquement. Ils ont décidé d'aller pousser les examens complémentaires plus loin. Ils lui ont fait un scanner et ils se sont rendu compte que ce jeune homme avait une déchirure de l'arrière-gorge et pour être plus précis, ce qu'on appelle un pneumomédiastin, c'est-à-dire de l'air qui s'est inséré dans la zone entre les poumons. C'est lié au fait que lorsque vous retenez d'éternuer, vous augmentez la pression, elle va être multipliée par 5 à 20, Mais c'est pas tout. Au-delà de cette histoire un peu anecdotique, le professeur Philippe Amouyel, dans son guide anti-Alzheimer, recommande de ne jamais vous retenir ni de tousser ni d'éternuer. Parce que lorsque vous faites ça, vous augmentez la pression au niveau de votre nez, au niveau de la gorge, au niveau des oreilles, mais aussi au niveau du cerveau. Et vous allez entraîner une fragilité au niveau des vaisseaux sanguins qui vont parfois, sur des zones de faiblesse, entraîner des tout petits saignements. Sauf que ces saignements, évidemment, ils vont cicatriser tout seuls, mais ils vont former une cicatrice, comme je vous l'ai dit, mais plutôt fragile. Et à force de répéter ces gestes, eh bien, ça va se fragiliser et vous allez perdre des neurones propices à l'évolution d'une maladie d'Alzheimer. Donc, vous l'aurez compris, il faut éternuer, même si c'est un peu compliqué, mais faites-le avec votre masque.
Oui, c'est contre-intuitif en ce moment hein, de dire « il faut éternuer ». Bon, si on n'est pas malade, Jimmy, et qu'on a pas une, je sais pas, une petite poussière coincée au fond du nez, il n'y a aucune raison d'éternuer.
Eh bien si, il y a un syndrome qui est plutôt rigolo, on appelle le Hachou syndrome. C'est 10 à 30% de la population, donc c'est vraiment très fréquent. C'est le fait d'éternuer lorsqu'il y a une stimulation lumineuse, un excès de lumière ou un rayon de soleil, vous vous mettez à éternuer. L'explication, elle est plutôt simple. Lorsque vous avez de la lumière qui arrive au niveau de vos yeux, vous avez l'iris, cette structure de l'œil qui permet de dilater ou de contracter la pupille pour éviter d'avoir trop de lumière ou pas assez. Eh bien à cet endroit-là, il y a un message nerveux qui passe par les fosses nasales et votre cerveau a l'impression, c'est certain, qu'il y a une agression et tout d'un coup vous vous mettez à éternuer. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Ce serait lié à un réflexe archaïque. Lorsque le bébé sort du ventre de la maman, parfois il se met à éternuer lorsqu'il a justement cette lumière qui arrive au niveau des yeux. Eh bien, ça serait pour évacuer les sécrétions du liquide amniotique et donc un réflexe archaïque de survie qui ne sert pas à grand-chose, mais qu'on garde chez certains pendant très longtemps.
Merci Jimmy. Le docteur Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1, on vous retrouve évidemment tout à l'heure, 15h, avec Mélanie Gomez pour son rendez-vous. 8h41, notre planète avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny. Fanny, est-ce que vous
bonjour Mathieu, je suis là. Bonjour Mathieu.
Depuis chez vous, parfois il y a un petit décalage avec la distance. Bon Fanny, vous vouliez attirer notre attention ce matin sur le fait que 75% des Français utiliseraient des pesticides à la maison.
Véridique. Nos mains innocentes en appliquent bien plus que l'on ne le croit. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, nous alerte à travers une étude baptisée PestiHome, réalisée chez 1500 ménages, sur les pesticides qui sont présents dans notre quotidien et que nous utilisons avec grande insouciance.
Mais alors, comment ces pesticides s'immiscent chez nous ?
Alors, malgré leur dangerosité, les insecticides font partie de notre vie de tous les jours, Mathieu. Qui n'a jamais, par exemple, peut-être vous, appuyé sur la gâchette d'un spray anti-moustique, fourmi ou guêpe, hein ? Ces vaporisateurs,
je vais juger, vous les connaissez. Je vais répondre coupable, je vais plaider coupable.
Et oui, on les emploie fréquemment, mais ce sont bien des insecticides que nous utilisons sans les considérer comme potentiellement nocifs pour nous. Mais selon la théorie du boomerang, cela ne nous laisse pas indemnes. Nous diffusons dans notre intérieur des molécules particulièrement toxiques que l'on qualifie de neurotoxiques car elles s'attaquent directement au système nerveux central des animaux et ne font pas la différence entre insectes ou humains. Idem pour la lutte contre les puces et les tiques de nos animaux de compagnie, chiens et chats qui portent autour du cou des colliers imprégnés de produits phyto. Alors imaginez votre chat H24 avec ses substances sur le poil. Imaginez-vous maintenant en train de le caresser allègrement sans penser que le produit sera en contact de votre peau ou alors de celle de vos enfants aussi souvent que vous le câlinerez.
Et alors quelles sont les alternatives possibles ?
Il y en a des alternatives. Il existe des solutions simples et écologiques pour se débarrasser des pesticides à la maison et continuer à lutter contre les parasites sans nuire à notre santé. Je vous donne comme ça une petite astuce. Le café moulu, par exemple, peut devenir le terminator des insectes tels que les guêpes, les abeilles ou les mouches. Il suffit d'en faire un petit tas dans une coupole et d'y mettre le feu. Moi, j'ai testé ça cet été, ça a été bigrement efficace. Le café va se consumer progressivement en dégageant une fumée à l'odeur puissante qui fera fuir tous les nuisibles. Une astuce très simple que vous pouvez mettre en place et ça permet d'apprécier son compromis son repas en terrasse. Et puis, en ce qui concerne nos animaux de compagnie, il y a la panoplie d'huiles essentielles. Elles permettent de les protéger efficacement contre les puces et les tiques, tout comme certaines plantes que vous pouvez avoir à portée de main dans votre jardin. Et elles agissent comme des répulsifs naturels contre les parasites. C'est le cas, par exemple, de la tanaisie ou encore de la sauge.
Merci Fanny Agostini, notre planète. Il est 8h43 sur Europe 1. Et à suivre, Nicolas Canteloup et Julie pour la revue de presse. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h46 sur Europe 1. Ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On retrouve Mathieu Béliard pour le titre principal de l'actu.
Oui, bonjour ma chère Julie, c'est Mathieu Béliard, bienvenue sur Europe 1. Tiens, ah bah, écoutez, Sonia, bienvenue Sonia. Sonia Mabrouk, reviens, ça va Sonia?
Oui, écoutez, vous avez entendu, c'était chaud mon interview avec Adrien Quatennens. Vous avez vu que c'était une interview musclée, on aurait dit PSGOM, on a frôlé tous les deux le carton rouge. Excusez-moi mon cher Mathieu de cette violence, cette démonstration de violence, mais j'ai failli, oui vous l'avez vu, à un moment donné j'ai failli tomber la veste Chanel et lui mettre un gros taquet. Oui, un gros taquet.
On a bien senti, chère Sonia, la tension. En tout cas, c'est sûrement lié à la chaleur, car il fait très chaud. Bon, répétons-le sur Europe 1, il fait très chaud aujourd'hui. Notre nouveau slogan, c'est regarde le monde transpirer. L'info du jour, en effet, ce sont les fortes températures d'été aujourd'hui dans tout le pays. Et oui, c'est un temps à flâner dans les parcs, disons-le, à bronzer à la plage, à draguer les filles dans les bars.
Oh,
eh bien non. En fait, ça va être un temps à rester seul chez soi pour éviter le coronavirus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en est d'accord, Julie, on n'en vit pas la vie des jeunes en ce moment. Julie, je pensais pas que je dirais ça un jour, mais je suis très content d'être vieux. Voilà. En tout cas, à mes côtés, il y a Laurent Cabrol, à l'instant, qui se désinfecte à l'alcool. Enfin, qui, pour être exact, qui s'hydrate à mes côtés. Et vu l'odeur du breuvage, s'il y a la moindre molécule de Covid à l'intérieur, c'est sûr qu'elle va mourir, la molécule. Voilà. Tiens, d'ailleurs, Laurent, allons-y. Un point météo avec Laurent Cabrol.
Écoutez, effectivement, il fait chaud, vous l'avez constaté. Les écolos ont raison de supprimer le sapin de Noël, hein, puisque de toute façon, il n'y aura pas de Noël selon Météo France, qui prévoit une température, alors tenez-vous bien, chers amis, une température de 34 degrés sur Bordeaux en décembre. Alors, pour ce qui est du temps aujourd'hui, il fera 38 degrés sur la capitale, en température ressentie, hein, bien sûr, sous le masque, il fera 74 degrés. Voilà. Il fera 44 degrés, notons-le quand même, 44 degrés, c'est une première, 44 degrés en Alaska, 47 degrés au pôle Nord et 11 degrés en Bretagne. Oui, c'est un classico.
Il fait chaud, il fait chaud.
Quoi qu'il arrive, réchauffement ou pas, il fait toujours 11 degrés en Bretagne. Hein, ça ne varie pas. Et en Bretagne, il pleut, vous savez, toujours comme vache qui pisse. Donc...
Oh oui, oh j'adore. Merci. Laurent, j'étais en panne sèche. Pleuvoir comme vache qui pisse. Bonjour, oui, c'est Stéphane Bern. Oui, aujourd'hui, je vais vous expliquer d'où vient l'expression qui passionne tout le monde. Il pleut comme vache qui pisse. Figurez-vous qu'en 1133, le 27 Brumaire, François Ier s'était aménagé un salon dans une étable, car il aimait à regarder Netflix. Mais la fibre ne passait que dans son étable. Du coup, il avait déménagé la vache qui était dans son étable, il l'avait, François Ier, mis à l'étage juste au-dessus. Et comme le parquet à l'époque avait des trous, parce qu'il avait été posé par un mauvais installateur de véranda à Kenna, la plus de véranda, bon bref, ils m'ont débauché, ça leur apprendra, et bien, la pauvre Marguerite faisait ses besoins ainsi. Et il pleuvait comme vache qui pisse.
Mais qu'est-ce que vous racontez, Stéphane? Il n'y avait pas Netflix en l'an 1133, ni François Ier, d'ailleurs.
C'est ça qui est bien, ne dis pas trop fort, ma chère Julie. C'est ça qui est bien avec l'histoire, on peut raconter ce qu'on veut. On n'était pas là pour vérifier.
Oui, bah vous en privez pas, hein, Stéphane. Allez, à bientôt. À cet après-midi, 16h. Allez, tout de suite, élu haut commissaire au plan, François Bayrou donnait avant-hier une interview au JDD. Monsieur Bayrou, en quoi consiste ce poste, hein, que certains considèrent comme un placard, il faut bien le dire.
Madame Julie.
Ah tiens.
Oui, je l'ai passé en une fois.
Ah bah oui,
aujourd'hui.
Bravo.
Oui. En quoi consiste le poste de haut commissaire au plan? Eh bien, vous le savez, gouverner, c'est prévoir.
C'est
préférer parfois un placard à Paris plutôt qu'un bureau à Apeau.
Alors, votre rôle va être de réfléchir à l'avenir de la France, hein, c'est ça?
Voilà, c'est exactement cela. Je deviens donc une sorte de président du Yaka Faucon.
Président du Yaka Faucon, expliquez.
Oui, pour être explicite, mon rôle va être quoi? Il va être de dire, il n'y a qu'à produire des masques dans notre pays, faut qu'on retrouve notre souveraineté, il n'y a qu'à relocaliser les usines, faut qu'on respecte la planète,
etc. Mais comment on va juger vos résultats?
Eh bien, comme je dois penser à la France de dans 30 ans, on se donne rendez-vous, comme dirait M. Bruel, dans 30 ans.
Mais attendez, vous avez 69 ans.
Sauf que lui, c'est 10 ans, je crois.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est pas
grave,
dans le texte, mais ça
non, m'amuse. Non, mais oui, mais c'est
de
pas
vous
la peine.
Perturber alors, quand attendez. Vous êtes dans vos feuilles à plus savoir où vous en êtes.
Non, alors attendez, on va faire un petit calcul. Vous avez 69 ans, vous aurez voilà. donc 99 ans dans 30 ans. Hein
oui. Et, ah. Oui, et si, vous savez, si je n'ai pas réussi à moderniser la France à 99 ans, eh bien, vous savez, je suis un homme politique responsable. J'en tirerai les conclusions en me retirant de la vie politique, s'il le faut, à 99 ans, en pleine force de l'âge.
Ça sera raisonnable.
Je vous en prie.
Merci, Monsieur Bayrou. Avant que Jean Castex n'annonce rien de spécial, la rumeur d'un couvre-feu à 23h circulait. On va en parler avec la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Bonjour, Madame Bachelot.
Oui, bonjour, c'est Roselyne, bonjour Madame Julie, Monsieur Béliard, Monsieur Cabrol, Monsieur Mohamed, formidable, écoutez, c'est un collègue, écoutez, oui, ben, monsieur, ben, si, Monsieur Béliard, le seul journaliste français, précisons-le, qui rend hommage chaque matin à Alexandre Dumas, puisqu'il arbore magnifiquement le look de D'Artagnan.
Alors Roselyne, un couvre-feu à 23h sera un nouveau coup dur pour la culture, puisque pour être chez soi à 23h, il faudrait des spectacles qui se terminent à 22h, par exemple.
Oui, oui, mais écoutez, non, enfin, on marche sur la tête, allons. Mais on n'a qu'à faire aussi des concerts qui commencent à 4h de l'après-midi, avec un siège sur deux, et puis 2 mètres de distance entre chaque spectateur. Non, franchement, c'est n'importe quoi, chère Julie. Non, arrêtons, je le dis de grâce, cette mascarade, il faut que ça cesse. Vous vous rendez compte que le seul concert auquel les Parisiens et les Parisiennes ont eu droit à assister en 3 mois, c'est celui de Brigitte Fontaine, comme s'il n'avait pas assez souffert, assez comme ça, avec ces pauvres Parisiens.
Brigitte Fontaine à l'Olympia, hein, c'était ça, ouais. Bon, oui. Bon, bah, c'est oui, bien, oui, c'est très oui. bien, Brigitte Fontaine.
Oui, bien sûr, écoutez. Non, mais écoutez, c'est une artiste hors pair, j'ai mais beaucoup oui. de respect pour Brigitte Fontaine. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué le paysage de spectacle en ce moment culturel. En concert, il y avait Brigitte Fontaine et au cinéma, on a Police d'Anne Fontaine. Ah, je peux vous dire qu'elles sont créatives, les femmes Fontaine.
Oh non, pas vous, arrêtez. Allons, Roselyne.
Bah, excusez-moi, mais écoutez, des années de grosse tête, ça déforme. Hein.
Bon, en tout cas, le conseil scientifique n'aide vraiment pas la reprise des spectacles.
Mais oui, mais je le dis au gouvernement, il faut arrêter de toujours leur demander leur avis au conseil scientifique. Ils sont totalement frileux, ces pauvres garçons du conseil scientifique. Sur RTL, il y a les grosses têtes et au conseil scientifique, il y a les petites bites, hein, croyez-moi. Oui, mais écoutez, quoi. C'est de la culture aussi, les Beatles. Les petites bites, les
mais
petites
arrêtez,
bites.
Non.
Oh, mais écoutez, c'est mon syndrome hein. grosse tête qui revient.
Oui, oui, bah, écoutez, on va vous laisser. Hein.
Oui, d'accord. Oui, la prochaine fois.
Bon, allez. Le téléfilm pour terminer. Le téléfilm Pourquoi je vis, le biopic sur Grégory Le Marchal, a été un énorme succès. Le spécialiste média Jean-Marc Morandini a tenu à revenir dessus. Bonjour Jean-Marc.
Oui, bonjour à chère Julie. Bonjour, il y avait longtemps. Ouais. C'est Jean-Marc Morandini. Jean-Marc Morandini, oui, Philippe Bandel avec plus de cheveux blancs. Enfin, moins de cheveux blancs, pardon. Oui, aujourd'hui, dans Morandini, nous allons revenir sur le succès du téléfilm Pourquoi je vis, puisque nous avons des informations exclusives Morandini, labellisées. Une suite serait en effet en préparation. Non pas une suite où Grégory Le Marchal revient. Ça se verrait trop.
Oh là là.
Ça serait une arnaque. Non,
lourd, lourd.
Un deuxième épisode nommé Pourquoi j'en vis pas. Voilà, ce sera cette fois le biopic de Magali Vahe. Voilà, la gagnante de la gagnante de la Starac l'année après Grégory Le Marchal et qui effectivement elle ne vit pas de cette activité.
Succès,
voilà.
ouais.
C'est à retrouver tout à l'heure dans Morandini.
Bravo, bravo Nicolas Canteloup, Julie, merci beaucoup. À demain, évidemment. On embrasse les auteurs de Nicolas, comme tous les matins. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilio, Arnaud Demange, vous retrouvez la revue de presque sur Europe1.fr. 8h56, il est là avec tous ses cheveux. C'est
mais
Philippe
évidemment.
Bandel pour Culture Média, 9h-11h, la matinée continue.
Et salut Mathieu, salut
bonjour
Julie.
Philippe.
L'info média du jour, c'est le festival de fiction de La Rochelle. Qui n'aura pas lieu, mais qui aura lieu. Il déménage exceptionnellement à Paris cette année et c'est l'occasion de découvrir une série à l'époque de la préhistoire. Vous connaissez, ça s'appelle Moa, comme Noah, M-O-A-H, surprenante, ni dialogue, ni musique. Juste des sons comme
vraiment
ça. C'est absolument incroyable. 10 épisodes, vraiment complètement dingue.
Dans Culture
évidemment, évidemment, on ne peut pas passer des extraits. On serait que le créateur et le réalisateur de la série, Benjamin Rocher, et Stéphane Strano, le président du Festival de la Fiction de La Rochelle. 1 milliard de vues cumulées, 3 millions d'abonnés sur YouTube. C'est les youtubeurs Lollywood. Ils seront avec nous pour leur soirée spéciale ce soir sur TMC. Ça s'appelle Lollywood, la nuit Lollywood sur TMC. Et puis Vincent McCain, l'acteur, vous voyez qui c'est lui ? Le type un peu évanescent, évaporé, comme ça, qui était le trentenaire des abusés, il est devenu le quadragénaire des abusés. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, c'est le très beau film d'Emmanuel Mourel, là, le premier rôle. Il sera avec nous dans ce studio.
Philippe Vandel, Culture Média, de 9h à 11h, c'est sur Europe 1, évidemment. 8h57, je vais vous retrouver demain, pas n'importe où. On va prendre un petit peu de hauteur, chers amis. Nous nous installons au premier étage de la Tour Eiffel pour tracer les perspectives économiques des mois à venir. Les mois à venir seront décisifs. Et nous nous installons dans le symbole de l'attractivité française, au premier étage de la Tour Eiffel, demain, pour une matinale spéciale. Toute l'équipe d'Europe Matin vous retrouvera demain avec grand plaisir. D'ici là, vous le savez, le monde aura changé. On va vous le raconter.